السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 26 ذو القعدة، عفوا 26 ذو الحجة 1429، ce qui concorde avec le mercredi 24 décembre 2008. Nous avons parlé la fois passée des règles relatives au manger. Et c'est pour dire que, comme vous devez le savoir, l'islam, c'est une religion, alhamdoulilah, qui englobe tout. L'islam, naam, t'apprend tout. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois dire, naam, tout ce que tu dois ne pas faire, naam. L'islam t'apprend comment dormir, comment se réveiller, que dire avant de dormir, que dire avant de se réveiller, que dire lorsqu'on rencontre les gens, comment s'habiller, comment parler, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'énerve, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on s'énerve, comment rentrer aux toilettes, comment en sortir, que dire lorsqu'on rentre, que dire lorsqu'on sort, que dire lorsqu'on fait le wudu, et comme ça. Plus on connaît ces choses, plus notre cœur devient illuminé. Et plus on ne connaît pas ces choses, plus on a des ténèbres et des obscurités dans le corps, dans le cœur. C'est pour ça que, on trouve les personnes, leur foi et la lumière qu'ils ont dans le cœur, c'est proportionnel. C'est-à-dire, c'est, comment dire en arabe, nisbi. Et cela diffère d'une personne à une autre. Parce que l'autre personne, par exemple, ne connaît de l'islam que telle et telle chose. L'autre, par exemple, elle a plus de lumière parce qu'elle connaît un peu plus. Et la troisième a beaucoup plus de lumière que les deux dans le cœur parce qu'elle connaît beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus de règles, beaucoup plus d'invocations, beaucoup plus de ad'iyah et comme ça. Voyez, aujourd'hui, inshallah ta'ala, puisqu'on a terminé les règles qui ont rapport avec le manger et le boire, le titre d'aujourd'hui c'est les règles relatives aux salutations. La même chose donc, même pour les salutations, il y a des règles. On ne dit pas n'importe quoi, mais on dit des choses précises. Quand est-ce qu'on les dit, et où est-ce qu'on les dit, et quand est-ce qu'il ne faut pas dire, quand est-ce qu'il ne faut pas saluer, quand est-ce que c'est le petit qui salue, quand est-ce que c'est le grand qui salue, le plus âgé, et comme ça. Toutes ces choses, Inch'Allah Ta'ala, on va les voir bi'idhnillah azza wa jalla aujourd'hui. Ça me rappelle quand je dis cela que l'islam yani, est une religion qui englobe tout, qui ne laisse rien à la personne. Bien sûr, elle te laisse libre, c'est-à-dire ne te contraint pas. Ne te contraint pas, par exemple, à rentrer dans le din si quelqu'un est kafir. Si quelqu'un est kafir, il a le choix entre rentrer dans le din de l'islam et sauver sa peau ici dans cette dunya et demain quand il meurt. S'il veut pas rentrer en islam, bah, comme a dit Allah Ta'ala, la ikrah fi din, pas de contrainte dans la religion, et c'est lui le grand perdant demain quand il va rencontrer Allah Azza wa Jal. D'ailleurs ici il va vivre aussi, il va vivre yani difficilement, naam, il va vivre châtié, il va vivre avec beaucoup de difficultés, comme a dit Allah Ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Je disais, ça me rappelle qu'un juif, il a dit, votre prophète, yani, il n'a rien laissé, il parle de tout. parle de tout, il n'a rien laissé. Et il nous a même parlé de comment qu'on fait, yani quand on est dans les toilettes, il nous a même parlé des selles. Naam. Il nous a même parlé, yani comment qu'on fait dans les toilettes, qu'on ne touche pas la chose avec la main droite, qu'on ne se nettoie pas avec la main droite, qu'on ne se nettoie pas avec un os par exemple, et comme ça. Naam. L'islam, bi'idna ta'ala, n'a rien laissé, sauf ceux qui n'ont pas appris leur religion, ceux-là bien sûr, naam, ils seront loin d'après les choses qu'ils ont délaissées. طيب je dis bismillah ar rahim wa salatu salam ala ashraf al mursalin. Règle relative aux salutations. Saluer l'autre selon les règles et les formules islamiques est l'une des pratiques sociales qui distingue la femme musulmane. La salutation n'est pas pour elle une coutume sociale dont les formules et les formalités changeraient selon les temps et les sociétés. Mais c'est une règle de bienséance islamique dont tous les détails sont déterminés. Vous allez voir, inshallah ta'ala, comment tous les détails de la salutation sont déterminés. L'islam a organisé de manière précise toutes les modalités relatives aux salutations. Certaines de ces modalités sont mentionnées dans le Coran, d'autres plus détaillées encore sont évoquées dans les hadiths. Ces derniers, les hadiths, sont tellement multiples dans leurs ouvrages que les traditionnistes leur ont consacré des chapitres entiers. Non, vous lisez comme ça dans le Bukhari, dans le Riyad Salihin, vous allez trouver « Bab yani Salam » ou « Ahkam Salam ». Un chapitre spécialement aux salutations. Tellement il y a beaucoup de hadiths en ce sens, et tellement il y a les salutations, on me dit qu'on m'entend pas. Taïeb, je répète. Saluer l'autre, avant de l'aborder. Naam, taïeb, je reprends le micro. Alhamdoulilah. Maintenant, inchallah, vous m'entendez. Saluer l'autre avant de l'aborder et rendre sa salutation, s'il la prononce en premier, sont des pratiques ordonnées par le Coran. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, aux croyants, je dis d'abord en arabe, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تُسَلِّمُوا وَتَسْتَأْنِسُوا عَلَى أَهْلِهَا. Il a dit en français, « Aux croyants, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres. » Avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. Coran 24-27. Il a dit aussi, « Si on vous fait une salutation, il a dit, « وَإِذَا حُيِّيْتُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. » Il a dit, quand on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou tout au moins rendez-la. Coran 4:86. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vivement encouragé à répandre le salut en tant que pratique sociale ayant comme principale vertu la consolidation des liens entre les croyants. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, un homme demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel est l'acte le plus méritoire en islam? Quel est l'acte le plus méritoire en islam? Imaginez quelle va être la réponse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, donner à manger aux nécessiteux et saluer celui que tu connais et celui que tu connais pas. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, l'acte le plus méritoire, ou bien les actes les plus méritoires, c'est quoi? C'est donner à manger aux nécessiteux et saluer, dire salam alaykoum, à celui que tu connais et celui que tu connais pas. Dans un autre hadith, il est précisé que la salutation fait partie de cette pratique sociale recommandée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cette pratique. Rendre visite aux malades. Deuxièmement, suivre les convois funèbres. Troisièmement, adresser le souhait de miséricorde à celui qui est éternu. Quatrièmement, assister le faible. Cinquièmement, aider l'opprimé. Sixièmement, échanger fréquemment les salutations. Et septièmement, satisfaire celui qui nous adjure en nous faisant une demande. Donc le sixièmement, c'est quoi? C'est échanger fréquemment les salutations. C'est ce qui a rapport avec le dars d'aujourd'hui. Donc, eu égard à l'impact considérable de la salutation dans la consolidation des liens de fraternité, d'affection et de proximité entre les individus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorda un intérêt particulier et ne cessa d'inciter à la pratique. Il en fit même l'une des pratiques qui mènent au paradis, puisqu'elle renforce l'amour entre les croyants et que ce sentiment est l'un des signes qui confirme la véracité de la foi. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par celui qui détient mon âme en sa main. C'est une façon de jurer. Quand on jure par Allah Azza wa Jal ou bien ses attributs. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il a l'attribut de détenir les âmes entre ses mains. Comme il détient tous les cœurs entre deux doigts. Donc, il est possible qu'en jurant, tu dises, je jure par celui qui détient, par exemple, mon âme entre ses mains, au lieu de dire Wallah. C'est la même chose. Ou bien tu dis, je jure par celui qui détient mon cœur entre ses deux doigts. Et comme ça. Je jure, il a dit à Afoun, par celui qui détient mon âme en sa main. Vous n'accéderez au paradis que lorsque vous acquérez réellement la foi. Écoutez bien ce hadith que tout le monde connaît, Inch'Allah, mais c'est un peu une sorte de révision. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a juré que personne ne rentrerait au paradis que s'il avait vraiment la foi. Donc, le kafir, le mécréant, c'est-à-dire n'a aucune chance de rentrer au paradis. Et c'est pour ça que les savants disent, si tu doutes d'un kafir, tu sais qu'il est kafir, ensuite tu doutes. Tu dis peut-être que cette personne va aller au paradis. Tu dis, subhanallah, celui-là, pasteur, l'autre, je ne sais pas, ils ont fait du bien à l'humanité, ils ont fait ceci. Ensuite tu dis peut-être Allah Ta'ala va le faire rentrer au paradis. Si tu dis comme ça, tu risques de devenir toi-même mécréant. Car Allah Ta'ala a cité dans beaucoup de versets, et aussi le messager d'Allah vient jurer ici, que personne des mécréants ne rentrera au paradis. Naam. Sauf celui qui a d'abord adhéré à l'islam, naam, et a fait les bonnes actions. Al-Muhim. Donc, le messager a juré que personne ne rentrerait au paradis, sauf s'il avait d'abord la foi. Ensuite, il a dit, or, cela ne se réalisera, c'est-à-dire, vous n'aurez certainement la foi, vous n'aurez la foi, que lorsque vous témoignerez de l'affection les uns envers les autres. Naam. Tu auras vraiment la foi lorsque tu témoigneras et il y aura de l'amour entre nous les musulmans. Ensuite, voulez-vous donc que je vous indique une œuvre dont l'accomplissement vous permet de manifester votre affection les uns envers les autres? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, échanger fréquemment des salutations. C'est rapporté par Muslim, voir Sharh Muslim, volume 2, page 35. Donc, si on veut vraiment qu'on s'aime mutuellement, ce n'est pas seulement en faisant les cadeaux, comme dans le hadith, Tahad ou Tahabou. Naam. Mais c'est aussi, et d'abord, en s'échangeant, lorsqu'on s'échange, on échange entre nous, mutuellement les salutations. Et si on échange vraiment les salutations, c'est une preuve que quoi? Que, masha'Allah, donc on va s'aimer. Et si on s'aime, c'est là seulement que c'est un délit qu'on a la foi. Et si on a la foi, C'est là seulement que on va rentrer ou là on est apte à rentrer au paradis bi'idhnillah azza wa jalla. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme que celui qui mérite l'agrément et la rétribution d'Allah azza wa jalla, c'est celui qui prend l'initiative de saluer les autres. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, de l'ensemble des gens, écoutez bien ce hadith, non, mais écoutez bien ce hadith, de l'ensemble des gens, l'homme le plus proche d'Allah est celui qui les salue en premier. Allahu Akbar, vous avez entendu ce hadith, comment qu'il est important et combien qu'il est facile à être quoi, à être appliqué. Naam, tu veux être le plus proche d'Allah Azza wa Jal, il suffit que tu fasses quelque chose de très simple. C'est quoi? Faire la prière toute la nuit et jeûner toute la journée? Non. Seulement, être le premier à saluer les autres. Naam, ce hadith, rapporté par Abu Daoud, la chaîne de ses transmetteurs, est jugée excellente. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit sahih dans le numéro 5197. En arabe, inna awla an-nasi billah man bada'ahum bisalam. Le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui commence à saluer les autres. Allahu Akbar. Regardez, pour être plus proche d'Allah Azza wa Jal, hein, ce n'est pas tu vas donner tout ton argent, mais tu vas passer toutes tes journées à jeûner. Il a dit seulement quand tu rencontres quelqu'un, tu commences par lui dire salam alaykoum avant qu'il ne te commence lui. Subhanallah l'adim. C'est pour cette raison que Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude d'aller au marché et saluer toutes les personnes qu'il y rencontrait. On lui demanda une fois, que fais-tu au marché alors que tu ne supervises aucun commerce? Et tu ne t'intéresses pas au prix des marchandises. Et tu ne participes pas aux assemblées qui ont lieu. Qu'est-ce que tu fais donc au marché? Il a répondu, j'y vais pour saluer ceux que je rencontre. J'y vais spécialement pour saluer ceux que je rencontre. Voir Al-Bukhari, hein, Adab al-Mufrad, volume 2, page 465. C'est un hadith authentique. Vous voyez, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, hein, il ne perdait pas son temps. Il dit, moi, hein, au lieu que je perde mon temps à ne rien faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement devant la porte, par exemple, du souk, du marché, et j'attends les gens. Celui qui rentre, je lui dis salam alaikum. Celui qui sort, je lui dis salam alaikum. Ou bien je rentre à l'intérieur, c'est pour rencontrer des gens. Et je commence, salam alaikum, comment vas-tu? Salam alaikum, salam alaikum, alam bikum, salam alaikum, salam, et comme ça. Et, naam, regardez, yani, comment ça rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et comment, yani, et combien on a de récompenses. Et nous, yani, combien de récompenses, yani, on les laisse passer sans rien faire. Donc, comme nous l'avons signalé plus haut, la salutation n'est pas, pour la société musulmane, une coutume soumise aux conventions humaines et donc susceptible de changer selon l'époque et l'entourage social. Mais c'est plutôt une pratique dont toutes les modalités sont définies par l'islam. Naam. Dire salam alaikum, ce n'est pas une habitude de quelque chose qui change, hein, d'après les temps et d'après le modernisme et d'après la ville où on est ou là d'après les habits ou là d'après avec qui on est. Non, c'est une adoration. C'est une adoration. Hein. Ainsi, quand on commence par saluer les autres, l'unique formule à prononcer est assalamu alaikum. Quand on répond à la salutation d'autrui, on dit wa alaykum assalam. Je répète, assalamu alaykum et wa alaykum assalam. La musulmane soucieuse de préserver son identité islamique doit s'attacher à cette formule propre à l'islam et ne la remplacer par aucune autre formule. Elle ne doit en aucun cas la négliger, ni lui substituer d'autres formules fort répandues dans les sociétés musulmanes. et qui ne sont pas conformes aux commandements de l'islam. Naam, la vraie musulmane, elle tient toujours sur quoi? Salamu alaikum. Il ne la change jamais. Il fait tout son possible pour ne dire que salamu alaikum et ne pas la changer. Bien sûr, après salamu alaikum, elle peut ajouter des choses. Salamu alaikum, ahlan bikum, marhaban bikum, hayyakumullah. Mais elle commence toujours par quoi? Par salamu alaikum. Et il dit ici, elle ne doit pas, naam, elle ne doit pas la substituer à d'autres formules qui ne sont pas conformes au commandement de l'islam, telles que la formule, il dit ici la formule, im sabahan. Je ne sais pas dans quel pays arabe on dit cette formule, on dit im sabahan. Ou bien la formule arabe moderne, sabahul khair. Naam, les gens quand ils se rencontrent, sabahul khair, qui est la traduction fidèle de bonjour, ou bien good morning. Good morning. Good morning, c'est en anglais. En français, c'est bonjour. En arabe, c'est sabahul khair. Mais ce n'est pas salamu alaikum. Quand tu dis sabahul khair, tu n'as pas dit salamu alaikum. Certains même disent que tu peux même rentrer dans le mensonge. Car en arabe, sabahul khair, ça veut dire que il y a, yani, ce matin, mashallah, il y a le khair, il y a le bien, alors qu'il n'y a pas le bien. C'est plein de zina, c'est plein d'alcool qui se boit, c'est plein, on joue à la loterie, naam. Et toi, tu as dit que tout va bien et le khair, il est maujoud. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit salam alaikum, naam. Maintenant, si jamais, yani, les gens n'aiment pas salam alaikum, ou bien ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire là, je vais dire sabah al khair après avoir dit salam alaikum. Mais je commence d'abord par salam alaikum. Naam. La femme musulmane doit savoir, et avant cela, puisqu'on parle de salamu alaikum, naam, d'ailleurs on va le voir tout à l'heure que quand on quitte quelqu'un aussi, on lui dit salamu alaikum. On lui dit aussi salamu alaikum. Mais ce qui est vraiment désolant et malheureux, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup, même je suis sûr qu'il y a des frères avec la barbe et des sœurs en djilbab qui disent, lorsqu'ils se séparent, qu'ils disent bye. Ils disent bye. Naam. Je suis sûr qu'il y a au moins 5 ou 6 ou 10 ou là qui disent ça. Au lieu de dire salam alaikum. C'est très désolant, naam, que les gens disent bye au lieu de dire salam alaikum quand ils se séparent. C'est vraiment, vraiment désolant. Surtout maintenant, c'est devenu une mode. Les gens sont tellement devenus tellement complexés, qu'ils apprennent à leurs enfants de dire bye au lieu de dire salam alaikum. Seulement aujourd'hui, je parle aujourd'hui vers 17h ou vers 15h ou là, je voyais une femme avec le hijab et foulard sur la tête. Elle disait à ses enfants, dites bye à vos copains, dites bye. Dites-leur bye, on va partir, bye. Subhanallah, l'adim. On dit bye, on dit pas salam alaikum. Et comme ça, l'enfant très jeune, 4 ans, 5 ans, on lui apprend à dire bye. Bye, ça va rester dans sa tête et dans son cœur. Ce sera très difficile pour lui dire demain, il ne faut pas dire bye, il faut dire salam alaikum. Je dis salam alaikum qui vient d'Allah, je laisse salam alaikum qui vient d'Allah, qui est une adoration, qui contient des hasanettes, et je vais dire bye pour imiter les kuffars, parce que je suis complexé, j'ai honte d'eux, et dire que j'ai lu une fois, je ne sais pas cette chose, si c'est vrai ou pas, c'est à vérifier, mais ce que je sais, c'est que je l'ai lu. J'ai lu que des bye, ou la bye, ils ont fait une étude, ils ont trouvé que, ou bien en anglais, ou bien en italien, j'ai oublié, que ça voulait dire, quand on dit à quelqu'un bye, en le quittant, ça veut dire je te laisse, naam, je te laisse dans la bénédiction du prêtre. Naam. En disant salam alaikum, ça veut dire je te laisse dans la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, si c'est bye, je te laisse dans la bénédiction du prêtre. Le prêtre, il va te bénir, mon fils et ma fille. Le prêtre est ravi de vous. Naam, il va vous bénir, il va vous faire rentrer au paradis, le prêtre. Naam, si vous voulez, vous allez chez lui, vous donnez un chèque. Les prêtres, ils donnent des chèques. Tu vas chez lui, tu lui donnes un petit cadeau et tu fais quelques larmes dans tes yeux. Mon fils, faut pas avoir peur. Tu as fait la zina. C'est pas grave, la zina et l'alcool, c'est rien, mon fils, je vais te donner maintenant, je vais te signer un chèque à blanc. tu vas rentrer au paradis parmi les premiers. N'aie pas peur, mon fils. Hein. Reviens, Inch'Allah, samedi prochain avec un petit cadeau et n'aie pas peur. Non, tout est pris ici. El-Mouhim, il a dit, la femme musulmane, non, en disant cela, ça me rappelle une chose. Allah Moustéran, il y a tellement de nos jours et à l'époque où on vit, il y a tellement de shirk, et je dis, il y a tellement d'ignorance. Non, car le shirk, s'il n'y avait pas d'ignorance, il n'y a pas de shirk. Il y a tellement d'ignorance que des gens m'ont juré par Allah Azza wa Jal, le plus puissant, qu'il existe des gens dans un pays que je ne veux pas citer, qu'il existe des gens dans un pays arabe où certains gens vont vers ces certaines personnes. Ça m'a rappelé le prêtre qui te donne un chèque blanc. Vous savez qu'est-ce qu'ils font chez certaines personnes? Quand j'ai entendu, j'ai pas cru. Mais quand on m'a juré par Allah, j'ai cru. Parce que celui qui m'a juré, c'est une personne fiable. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui ont étayé ce que m'a dit cette personne. Et m'ont dit, ça c'est très connu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chez certaines personnes, des soi-disant des saints, des musulmans bien sûr. Il te vend une parcelle du paradis. Tu lui dis par exemple, salam, voilà, je voudrais par exemple 100 mètres carrés. Ah, il te dit d'accord, 100 mètres carrés, attends, je vais compter, c'est par exemple 1 000 $, 100 mètres carrés au paradis. Non, mais l'autre il vient, alhamdoulilah, moi j'ai pas assez d'argent, je voudrais juste 50 mètres carrés au paradis. 50 mètres, d'accord, c'est nature, c'est, allez, 200 $. Et comme ça, ils vendent, subhanallah l'adim, ils vendent des parcelles au paradis. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Ils ont raison de vendre. Pourquoi? Parce que ce sont les djuhel. Il y a un djuhel devant toi. Un djuhel qui ne connaît rien à son dîn. Profite. Allez, prends-lui son argent. Jette-le. Puis il ne veut pas prendre le dîn, celui-là. Prends-lui son argent. Il mérite. Il ne veut pas prendre son dîn. Allah Moussa'an. Le messager d'Allah. Afoun. Je continue, la femme musulmane doit savoir que cette formule de salutation, c'est-à-dire salamu alaikum, est celle qu'Allah Azza wa Jal a choisie pour ses créatures. Depuis Adam alayhi salam, si on remonte, c'est depuis Adam alayhi salam qu'il lui a enseigné pour qu'il la prononce en saluant les anges et pour qu'il en fasse une formule recommandée à toute l'humanité. Recommandée à toute l'humanité, car elle transmet une valeur que l'être humain apprécie en tout temps et en tout lieu. C'est quoi? La paix. Quand tu dis salam, c'est la paix. Hein, c'est pour ça que tu rencontres quelqu'un la nuit dans une rue, vous êtes seulement les deux, tu commences à te dire avant que cette personne arrive, tu vas dire j'ai peur, je sais pas si cette personne va me frapper, ou là elle a un couteau, ou là elle a un pistolet, ou là. Mais cette personne, dès qu'elle arrive, elle te dit salam alaikum. Alhamdoulilah, c'est la paix. Tu sens un soulagement dans ton cœur. Tu lui dis alaikum salam wa rahmatullah. Tu dis dans ton cœur, j'avais peur. Alhamdoulilah, quand on m'a dit salam alaikum, c'est la paix. Donc, tu sens un grand apaisement dans ton cœur. Naam. Moi, j'ajoute que non seulement c'est la paix, mais salam, c'est l'un des noms d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, comme vous savez, a des noms infinis. Personne ne sait combien Allah Ta'ala a de noms. Le hadith qui dit qu'il a 99, c'est seulement celui qui connaît les 99, il va aller au paradis. Mais il en a plus, comme je l'ai cité une fois dans un hadith authentique. Al-Muhim, l'un des noms, c'est quoi? C'est Salam. Salam, Al-Ghafour, Al-Rahman, Al-Wadud, et comme ça. Il a quoi? Il a Salam. Salam. Un musulman doit savoir que seule la communauté musulmane a conservé cette formule de salutation. Car c'est l'unique communauté qui est restée fidèle à la religion originelle. À ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah azza wa jal créa Adam, il lui dit, va saluer ce groupe d'anges et écoute bien la formule par laquelle ils vont te saluer. Car ce sera quoi? Ce sera ta formule de salutation et celle de tes descendants. Alors Adam dit aux anges, Assalamu alaikum. Et ils répondirent, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ils ajoutèrent, wa rahmatullah. Non, ils ajoutèrent, wa rahmatullah. C'est un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que cette formule de salutation soit bénie et pure, parce qu'elle vient d'Allah et elle contient l'un de ses noms. Puisqu'elle provient d'Allah, comme j'ai dit, elle contient l'un de ses noms. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah Azza wa Jalla, bénie et pure. Coran 24-61. Quand on entre dans les maisons, qu'est-ce qu'on dit? On dit salam alaikum. Naam. Même si on est seul, il n'y a personne, on dit aussi salam alaikum. Naam. On dit salam alaikum ala ibadillah salihin. On va le voir, inshallah ta'ala, tout à l'heure. C'est pourquoi Jibril alayhi salam observait cette formule lorsqu'il transmet ses salutations à Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui faisait de même. Al-Bukhari Muslim rapporte que Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit, un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Aïcha, l'archange Jibril alayhi salam te transmet ses salutations. Je lui ai répondu que le salut, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions lui soient accordées. Hadith authentique. Voir Nawawi Riyad Salihin, page 439. Naam. Donc Aïcha radiallahu ta'ala anha a eu cette faveur pour quoi? Que Jibril alayhi salam lui a envoyé ses salutations. Allahu Akbar. Imagine que Jibril alayhi salam t'envoie ses salutations. Il te dise Assalamu alaikum ou là, que le messager d'Allah te dise, si tu étais en son époque, Jibril, je viens de le rencontrer, il m'a dit passe le salam à X. Et il te cite avec ton nom et ton prénom. Naam. Passe le salam à X. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur? Si on te dit maintenant, je viens de rencontrer le ministre, il m'a dit, passe le salam à X, avec ton nom et ton prénom. Si maintenant on va te dire, ce n'est pas le ministre, c'est le président de la République. Je l'ai rencontré, il m'a dit, passe le salam à X. Maintenant, ce n'est ni le ministre, ni le président. C'est Jibril alayhi salam qui t'envoie le salam. Faut dire, yani, ce qu'on ressent. Imaginez maintenant, Khadija radiallahu ta'ala anha, le messager d'Allah lui a dit, que Jibril dit que Allah ta'ala te passe son salam. Allahu Akbar. Allah Ta'ala te passe le salam. Allahu Akbar. Ce n'est maintenant ni Jibril ni... Ensuite, on était où? Naam. Il y a aussi d'autres règles relatives. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Aïcha c'est Jibril. Je parle de Khadija maintenant. Naam, je parle de Khadija radiallahu ta'ala. Il y a aussi d'autres règles relatives à la salutation, dont l'application incombe à toute musulmane engagée à suivre scrupuleusement les principes de l'islam dans sa vie sociale. Ces règles sont résumées par les hadiths suivants. Bukhari rapporte que Abu Huraira radiallahu ta'ala a dit, celui qui monte une bête commence par saluer le piéton. Apprenez cela. Quand je suis en voiture, naam, et que quelqu'un passe devant moi, c'est celui qui est en voiture qui commence à dire au piéton, il lui dit Salamu alaikum. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Celui qui doit commencer, c'est qui? C'est celui qui monte. Celui qui est sur la monture, maintenant il n'y a plus le cheval, etc. Quand je dis il n'y a plus, ça veut dire qu'il a été remplacé par la voiture. Donc celui qui est en voiture, c'est celui qui commence à dire salam alaikum au piéton. Et le piéton, c'est lui qui commence par saluer celui qui est en position assise. Je suis assis, et il y a quelqu'un qui est en train de venir. Je le vois venir. Quand il arrive devant moi, c'est lui qui doit commencer par me dire salam alaikum. S'il ne me dit pas et il passe, c'est lui le fautif. Naam, c'est lui qui a fait la faute. Mais, même s'il n'a pas commencé, et c'est moi je veux lui dire salam alaikum, bien sûr, ça se fait. Mais la règle dit que c'est le piéton qui dit d'abord à celui qui est assis. Et le petit groupe salue en premier celui dont le nombre est plus grand. Naam, nous sommes deux en train de marcher. Et maintenant, il y a trois frères qui sont en face en train de venir. Et nous sommes deux. On va se croiser. C'est nous les deux, l'un de nous, qui doit commencer à dire aux autres Assalamu alaikum. Et ce n'est pas l'un des trois qui commence. Naam, pourquoi? Parce que c'est le plus petit qui doit dire au plus grand. Dans une autre version de Bukhari, il y a l'ajout suivant. Et le plus jeune salue en premier son aîné. Naam, deux personnes se sont rencontrées. Les deux sont debout. Naam, qui va commencer le premier? C'est le plus jeune qui commence le plus âgé. Il lui dit salam alaikum. At-Tirmidhi rapporte que Asma bint Yazid, qu'Allah ta'ala l'agrée, a dit un jour, le messager d'Allah traversa la mosquée. Naam, une fois, tandis qu'un groupe de femmes y était assise. Il les salua alors en leur faisant un signe de la main. Hadith rapporté par Tirmidhi, jugé apprécié. Naam, volume 7, page 58, c'est un hadith sahih. Naam. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé, il a traversé la mosquée. Il y avait un groupe de femmes qui étaient assises dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il a dit? Il les a saluées en faisant un signe de la main. Peut-être certaines personnes disent que il y a un autre hadith qui dit que on ne doit pas ressembler les kuffars. Car le messager d'Allah a dit que les chrétiens faisaient le salut avec la main. Naam, avec la main. Il a dit que on ne devait pas le ressembler. Comment se fait-il que le messager d'Allah a fait ici un salut avec la main? Naam. On va joindre ou bien grouper entre ces deux hadiths en disant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a salué ici les femmes, certes, il a salué avec la main, mais en même temps, il l'a dit avec sa bouche. Il a dit salam alaikum et il a fait comme ça un geste de la main. Ce qui n'est pas permis, c'est de faire de la main seulement sans dire salam alaikum. Naam. Et Bukhari Muslim rapporte que Anas ibn Malik, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, salua des enfants qui étaient sur son passage. Ensuite, il a dit, le prophète alayhi salatu wasalam agissait ainsi. Hadith authentique. Donc, il est de la sunna, de quoi? De saluer les enfants. Hein? Et de ne pas avoir le kibr. Le kibr, c'est quoi? C'est l'orgueil, d'être orgueilleux, d'être enflé d'orgueil. Et de dire, moi je suis âgé, comment je vais dire salam alaikum à un enfant? Ça se fait pas. Ça se fait en islam. Tu le fais pour Allah. Tu le fais pour avoir des récompenses. Tu le fais pour tuer l'arrogance que tu as dans le cœur. Naam. Il y a ton nefs, il y a ton cœur qui veut te dire, tu es âgé, tu es ceci, tu es cela, tu es un savant, tu es beau, tu es riche. Tu dis non, je vais dire salam alaikum, comme ça aux enfants. Naam. Car pour faire le djihad à moi-même. Naam, car le messager d'Allah, c'est comme ça qu'il faisait. Et moi, j'ai été créé pour suivre le Coran et la Sunna. Donc, de la Sunna, c'est de dire salam aux enfants, aux gamins qui jouent aux billes et à la toupie. On leur dit salam alaikum quand on passe devant eux. Naam. Dans un long hadith rapporté par Muslim, Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala anhu, naam, a dit, nous prélevions sa part du lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui venait la prendre durant la nuit. Quand il arrivait, il nous saluait d'une voix qui parvenait à celui qui était éveillé d'entre nous sans pour autant réveiller celui qui était endormi. Hadith rapporté par Muslim. Regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il rentre. Il trouve un groupe, certains sont en train de dormir, certains sont réveillés. Il ne va pas dire, puisqu'ils sont en train de dormir, donc je ne vais pas dire salam alaikum pour ne pas réveiller les autres. Salam alaikum, naam, il faut la dire. Naam, il faut la dire, mais comment? Comment je vais faire ici? Donc je vais la dire à voix basse, juste pour faire entendre ceux qui sont réveillés. Et en faisant mon possible pour ne pas réveiller ceux qui dorment. Naam, car les gens ici, on va trouver des extrêmes. Ou bien, celui qui va dire, Moi, je dis pas salam alaikum. Pourquoi tu dis pas? Il dit, je veux pas réveiller les gens. Laisse-les dormir. Donc, même ceux qui sont éveillés, je vais les priver du salam. Je vais les priver du nom d'Allah Azzawajal. Je vais les priver de la bénédiction. Je dis pas salam alaikum à cause des gens qui dorment. Ça, c'est faux. Et il y a un sens opposé. Celui qui va dire, assalamu alaikum. Et il va crier, non. Tu lui dis, il y a des gens qui dorment. Je m'en fous. Faut dire salam. Et alors, je dis pas salam moi. Alors, la bénédiction. Je laisse le nom d'Allah. Je m'en fous celui qui dort. Salam alaikum. Allez. D'abord, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Faites pas la prière de la nuit. Levez-vous. Non. Tout cela, bien sûr, c'est des extrêmes. Tout cela, c'est des extrêmes. Le messager d'Allah était au milieu. Salam alaikum pour ceux qui sont éveillés. Les autres, je baisse ma voix pour ne pas les réveiller. Sallallahu alayhi wa sallam, on est vraiment loin de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Dans un long hadith. Afoun, une seconde, je vous fais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un d'entre vous rejoint une assemblée, quand l'un d'entre vous rejoint une assemblée, qu'il prononce le salut. Il dit salam alaykum. Qu'il le prononce aussi quand il la quitte. Car la première salutation n'est pas ou elle n'a pas plus de mérite que la dernière. Hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et Sahih. Naam. Quand quelqu'un rencontre ou la rejoint une assemblée, des gens sont assis. Qu'est-ce que je leur dis? Salam alaykum. Ensuite, je dis ce que j'ai à dire. Ensuite, je les quitte. Quand je les quitte, je dis aussi salam alaykum. Car la première n'a pas plus de mérite que la dernière. Pourquoi? En rejoignant les gens, j'ai dit salam alaykum. Et pourquoi en partant maintenant, je dis pas salam alaykum? Comme j'ai dit salam alaykum pour les rejoindre, je leur dis salam alaykum pour les laisser. Car beaucoup de gens se trompent ici. Ils disent salam alaykum seulement lors de la rencontre. S'ils se quittent, ils disent rien. Ou bien ils disent bye. Ils disent bye bye, salut et à toutes et à la prochaine et je ne sais pas. Des milliers de choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Non. De ces hadiths, nous déduisons les règles suivantes. Donc on va résumer les règles qu'il y a, inshallah ta'ala. La personne véhiculée salue en premier le piéton. La personne debout salue en premier celle qui est assise. Le petit groupe salue en premier le groupe le plus nombreux. Le plus jeune salue en premier son aîné. Naam. Aussi, il est recommandé de saluer toutes les catégories de croyants, y compris les femmes et les enfants. Naam. Les enfants, on ne dit pas ce sont des enfants, mais on leur dit salam alaykum. Naam. Comme disait Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, chaque fois qu'il rencontrait des enfants, salam alaykum, qu'on faisait aussi Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et d'abord qu'on faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le jeune, le petit comme ça, en lui disant salam alaikum. On lui apprend. Il va dire, ah, c'est comme ça qu'on dit salam alaikum. Il va apprendre cette phrase. Et à chaque fois qu'il va la dire aux gens, tu vas avoir avec lui des récompenses. Car c'est toi qui lui as appris à dire salam alaikum. Donc à chaque fois qu'il dit, toi aussi tu as des récompenses. Tu lui as appris quelque chose de l'islam, mashallah. Subhanallah. Tu lui as pas appris bye ou de là. Autre chose, tu as appris assalamu alaikum. Masha'Allah. Ensuite, et on dit aussi assalamu alaikum aux femmes, surtout si elles sont un groupe où il n'y a pas de fitna. Maintenant, s'il y a juste un homme avec une femme, cela dépend de quoi? Cela dépend aussi de la fitna. Si on est sûr qu'il n'y a pas de fitna, on dit assalamu alaikum et la femme répond alaikum salam. Si on a peur de la fitna, on ne dit pas. Si on a peur, je dis assalamu alaikum. Je connais cette femme, elle va pas s'arrêter de parler de salam, elle va passer à autre chose et des choses et des questions, etc. Je passe directement. Naam. Et la même chose pour la femme, elle dit pas à l'homme si elle a peur de la fitna. Autre chose, ou l'autre règle, salam alaikum, on l'a dit aussi en présence des gens endormis, à condition de ne pas les réveiller. Naam. Aussi, on l'a dit aussi quand on rejoint une assemblée et on l'a dit aussi quand on quitte une assemblée. Telles sont les règles organisant les modalités de salutation dans la société musulmane. Elles sont simples et pratiques. Et pourtant, certaines musulmanes les négligent par ignorance ou bien par laxisme. Non. La femme musulmane est donc appelée à les assimiler, les appliquer, avant d'inciter les autres femmes à la suivre. Normalement, c'est ici que se termine le dars, parce que le prochain dars, c'est les règles relatives à l'accès chez autrui. Mais moi, inshallah ta'ala, je vais ajouter bi'illah azzawajal d'autres règles que ici l'auteur n'a pas cité. Naam. Muslim, vous êtes avec moi? Naam. Sur l'inspect, vous êtes avec moi? Alhamdulillah. Et alhamdulillah sur l'inspect. Tayyib, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter que quand quelqu'un nous dit salam alaykoum, on répond wa alaykoum salam, on a 10 récompenses. Naam, on a 10 récompenses. Et si quelqu'un nous dit salam alaykoum wa rahmatullah, il dit alaykoum salam wa rahmatullah, 20 récompenses. Si on dit alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuhu, 30 récompenses. Regardez, 30 récompenses seulement en répondant alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Regardez combien de gens, et nous tous bien sûr, des fois on est feignant et le shaitan il veut pas te laisser tout dire. Il veut que tu dises seulement alaykoum salam. Ah, et comme ça le shaitan dit alhamdulillah, il n'a pas pu avoir 30 ni 20. Il a dit seulement alaykoum salam, allez. Et il a fallu qu'il dise, au moins qu'il dise seulement 10, qu'il prenne seulement 10 récompenses. Je ne veux pas qu'il prenne 20 ou 30. Comme ça dit le shaitan. Naam. Ensuite, naam, autre chose aussi, c'est quoi ici? Naam. Si il y a un groupe où il y a des musulmans et des kofars. Il y a un groupe où il y a des musulmans et des kofars. Beaucoup de gens disent que on ne dit pas salam alaykoum à cause des mécréants qu'il y a avec les musulmans. Ils disent, on dit salam ala man ittaba'a al-huda, salam sur celui qui a suivi la guidée. Naam. Mais je vous dis ici que cette chose n'est pas vraie. Cette chose, vous allez l'entendre beaucoup. Beaucoup de gens vont vous dire, on ne dit pas salam alaykoum sur quand ils sont mélangés kuffar et musulmans. On dit salam alaykoum seulement quand ils sont musulmans. À ces gens, vous leur dites, détrompez-vous. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé devant des gens qui étaient mélangés. Il y avait des musulmans, il y avait des mushrikines, des kuffars. Il a dit assalamu alaykoum. Il a dit quoi? Assalamu alaykoum. Il n'a pas dit salamu ala man ittaba'a al-huda. Donc, maintenant, il y a deux hommes, il y a deux femmes qui sont en train de parler. Naam. Un musulman et un kafir. Je passe devant eux, qu'est-ce que je dis? Salam alaykoum. Et dans mon cœur, que ce salam, c'est pour le musulman, bien sûr. C'est pour le musulman. Mais même s'il est en présence d'un kafir, je lui dis salam alaykoum. Pourquoi? Le hadith, je l'ai cité, il est dans le Bukhari, que le messager d'Allah est passé devant un groupe mélangé de kuffar et de musulmans, il a dit salam alaykoum. Tayyib. Autre chose. Le fait de commencer par dire le salam. Je rencontre quelqu'un, je lui dis salam alaykoum. Le fait que je commence, ce n'est pas une obligation. C'est seulement une sunnah. Naam. Mais, si jamais quelqu'un te dit salam alaykoum, ça devient obligatoire que tu lui rendes. Ça veut dire, si tu ne lui rends pas son salam, tu as des péchés. Donc, il y a une grande différence entre dire le salam, commencer le salam, et entre répondre au salam qu'on nous a dit. Il y a une grande différence. La première, le fait de dire salam alaykoum, c'est sunnah, si tu l'as fait, masha'Allah. Tout à l'heure, vous avez lu avec moi le hadith qui dit que celui qui veut être vraiment proche d'Allah, qu'il commence le salam. Non, maintenant, tu ne veux pas commencer, tu ne l'as pas dit, tu es libre. Mais si quelqu'un te dit salam alaykoum, il faut lui répondre. Si tu ne lui réponds pas, c'est quoi? Tu as des péchés. Car rendre le salam est une chose obligatoire. فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنَا أَوْ رُدُّهَا. Non, répondez. Allah Ta'ala a dit, répondez avec mieux ou bien rendez-la. Ça veut dire, ou bien, la moindre des choses, c'est de rendre le salam. Non, autre chose. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que personne ne va rentrer au paradis que s'il est croyant, et personne ne sera croyant que s'il y a l'amour mutuel. Voulez-vous que je vous dise quelque chose qui vous donne l'amour mutuel? Il a dit quoi? Il a dit « Efshu salam ».« Efshu salam ».« Efshu salam » entre vous. C'est quoi « Efshu salam » ? Ce n'est pas « Dites le salam ». Mais c'est « Propager ».« Propager le salam ». Il y a une grande différence entre « Dire le salam » et entre le « Propager ». Le dire, je peux le dire une fois seulement, une fois par jour. J'ai dit le matin « Salam alaikum khlas ». J'ai dit aujourd'hui, j'ai dit « Salam alaikum ». Mais je n'ai pas propagé le salam. Le hadith a dit « Efshu, efshu ». Efshu en arabe, ça veut dire « Propagez-le ». Naam, si c'est possible, chaque occasion, on n'arrête pas. Dis « Salam, salam, salam alaikum, salam » et comme ça. Naam, propagez le salam. C'est pour ça que, naam, c'est pour ça que, il y a un autre hadith où il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith d'ailleurs, je l'ai dit une fois, il se trouve dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani, il a dit, en nous montrant qu'il fallait propager le salam, il a dit, même si jamais un arbre ou bien un roc ou un rocher ou un grand caillou là, sépare entre vous, vous sépare, quand vous vous rencontrez, dites-vous encore salam alaikum. Ça veut dire que tu es en train de marcher avec ton ami. Ensuite, il y a un arbre qui passe au milieu. Vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer combien de temps? 2 secondes ou 1 seconde. Et vous allez vous rencontrer. Quand vous rencontrez, vous allez dire encore une fois salam alaikum. Et l'autre va te dire alaikum salam. Subhanallah l'adim. Si un homme vous sépare, si un arbre vous sépare, si un âne vous sépare, naam, si une voiture vous sépare, à chaque fois que vous vous rencontrez, vous dites salam alaikum, même si vous vous êtes séparés seulement pour quelques secondes, subhanallah l'adim. Tellement c'est recommandé de propager l'islam, le salam bi'idna azza wa jal. Naam. C'est pour ça que, par exemple, pour propager le salam, même quand on est dans la maison, on est à la maison, maintenant, ma mère ou là, mon mari ou là, m'a demandé quelque chose, je vais aller dans la cuisine et je vais revenir. Quand je vais revenir, je vais lui dire salam alaikum. Je ne vais pas dire, je ne dis pas parce qu'on est tous dans la même maison. On a été séparés. Il y a quelque chose qui nous a séparés. Non, j'ai été dans la cuisine, je suis revenu. Je suis allé à la salle de bain, je suis revenu. Je suis allé dans l'autre chambre et je suis revenu. Non, dans tous ces cas, quand on se rencontre une nouvelle fois, on dit salam alaikum. Non. Autre chose, Inch'Allah Ta'ala. Non. Autre chose, c'est que quand on est un groupe et que, par exemple, une personne est passée ou là, deux personnes, et par exemple, on nous a salué. On a dit salam alaikum et nous, on est un groupe. Ce n'est pas tout le monde, tous les individus du groupe vont répondre au salam. Mais une seule personne va répondre et ça suffit. Naam, j'explique. Naam, nous sommes 4 personnes. Et une personne est rentrée, elle nous a dit salam alaikum. On était par exemple assis. Elle nous a dit salam alaikum. Ce n'est pas la peine que nous les 4, on va lui dire à la fois assalam alaikum salam rahmatullah. Ou bien, moi je vais dire wa alaikum salam rahmatullah. Ensuite, le deuxième va dire wa alaikum salam. Le troisième wa alaikum salam. Le quatrième wa alaikum salam. Ce n'est pas comme ça la sunna. Mais une seule personne va répondre de nous 4. Et la meilleure personne, bien sûr, c'est la première qui va répondre, qui va vite répondre. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Si aucune personne de nous ne répond, tous les 4, tout le groupe qui sommes, on va avoir des péchés. Mais si une personne répond, cette personne va avoir des récompenses et nous, elle va éloigner de nous le péché. On ne va pas avoir le péché. Lakin, mais, écoutez bien ce que je vais dire, mais, si quelqu'un a éternué, non, et que nous sommes par exemple 5 assis avec une personne qui a éternué, la 6e, il a dit Alhamdulillah. Ou bien il a dit Alhamdulillah ala kulli hal. Parce que ça se dit aussi Alhamdulillah ala kulli hal. Dans ce cas, nous tous qui sommes assis, les cinq qui sommes assis, on doit dire à cette personne, la sixième, on doit lui dire Yarhamukallah. Naam. On doit lui dire Yarhamukallah. Il lui répond Naam. Il dit Kumlah islihu balakum, mais comme ça. Naam. Ou yakhfirullahu lana wa lakum. Mais nous tous qui avons entendu la personne éternuer, plus dire, dire Alhamdulillah. Si elle n'a pas dit Alhamdulillah, je ne lui dis pas. Mais si elle a dit Alhamdulillah en éternuant, nous tous, on doit lui adresser le souhait de miséricorde. Contrairement à la réponse du salam. La réponse du salam, une seule personne suffit. Une seule personne suffit. Autre chose. J'ai dit que saluer et dire salam alaikum, c'est tellement important. Et surtout, rendre le salam. Dire wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est tellement important que Cheikh Al-Albani rahimahullah, je l'ai entendu une fois dans une cassette, il a dit, même si quelqu'un est en train d'appeler à la prière, subhanallah al-azim, il appelle à la prière, par exemple dans la mosquée, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadun la ilaha illallah. Ensuite quelqu'un est rentré, il a dit salam alaikum. Et il n'y a personne pour lui répondre. Il a dit, il doit s'arrêter, couper le adhan. Il répond à la personne, il lui dit, alaykoum salam wa rahmatullah, ashhadun la ilaha illallah, il termine son adhan. Subhanallah al-azim. Le adhan, tu le coupes pour répondre à quelqu'un et lui rendre son salam. Le Coran, tu le coupes. Tu es en train de lire le Coran, quelqu'un est rentré. Il t'a dit spécialement à toi, il t'a dit salam wa alaykoum. Il n'y a personne qui répond. Tu attends. Tu coupes, tu dis wa alaikum salam wa rahmatullah et tu relis ton Coran bi idhnillah azza wa jall. Autre chose, est-ce qu'il y a ici autre chose? Naam. Quand on est par exemple en train de par exemple d'uriner, des fois il arrive par exemple sur toi l'homme, par exemple il arrive qu'il urine par exemple dans une comme ça dans la rue, dans un endroit caché par exemple. Naam, comme le messager d'Allah dans Sahih Bukhari, une fois il est parti devant une poubelle publique, naam, et il a uriné. Si jamais quelqu'un nous dit salam alaikum, on ne lui rend pas son salam quand on est en train d'uriner ou bien de faire autre chose. On ne rend pas le salam, on attend qu'on termine. Car le messager d'Allah a dit, quand je suis dans cette situation, comme maintenant je suis en train d'uriner, naam, il a dit ça après avoir terminé d'uriner. Il a dit, quand je suis dans une situation pareille, ne me dites pas, salam alaikum, je ne réponds pas. C'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Je ne le dis pas en étant dans cette situation. Il a même été faire les wudu et ensuite il lui a répondu, il lui a dit, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Autre chose aussi, c'est tellement important, salam alaikum, que même quand on rentre par exemple dans une chambre et si on trouve quelqu'un en train de faire la prière, on lui dit salam alaikum. Et celui qui est en train de faire la prière, c'est tellement important pour lui qu'il rende le salam que quoi? Que l'islam lui a appris qu'il doit rendre le salam avec sa main dans la salat. Tu es rentré dans ta chambre ou là, tu as trouvé quelqu'un en train de faire la prière. Tu lui dis salam alaikum. Et même si lui, il est en train de faire la prière, qu'est-ce qu'il fait? Avec sa main, il la dirige. Il la dirige comme ça, vers sa face. C'est-à-dire vers la qibla. Naam. Et il tend la main, la main ouverte, c'est pas les doigts. C'est la main, la paume comme ça vers le sol, naam, et ils tendent la main comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire wa alaikum salam wa rahmatullah. Mais il ne peut pas dire avec ses lèvres wa alaikum salam. Il dit rien avec ses lèvres. avec ses lèvres, il est en train de faire la salat. Il dit Subhan Rabbil Azim ou bien Subhanallah ou bihamdihi, ça dépend, ou bien il est en train de lire ou là, mais avec sa main, il fait un geste comme ça vers l'avant pour dire que je t'ai entendu et voilà la sunna, comment je te rends dans la salat. Vous avez remarqué, même dans la salat, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala et tu arrêtes, subhanallah, tu fais un temps comme ça, tu prends un certain temps juste pour rendre là le salam, tellement c'est important. Non. Autre chose aussi, on a demandé à l'Albani rahimahullah, quand quelqu'un rentre par exemple dans la mosquée, non, où est-ce qu'il dit salam alaikum? Devant la porte, salam alaikum? Ou bien quand il arrive à l'intérieur, non, devant par exemple une personne, il a dit, il laisse quand il arrive devant une personne. Il passe salam alaikum comme ça en rentrant dans la mosquée, en rentrant, il va gêner tout le monde. Tout le monde qui est en train de faire la prière, il va dire, je vais lever ma main. Peut-être personne ne va rendre le salam. Celui qui va lire, qui lisait le Coran, il va s'arrêter. Celui qui fait la prière, il va... Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans la mosquée? On va choisir l'endroit où on va faire la prière et je dis à celui qui est devant moi. Je dis celui qui est devant moi, je lui dis entre moi et lui, je lui dis salam alaikum. C'est tout. C'est pas la peine de faire entendre tous ceux qui sont dans la salle. Non. Et c'est tellement important de répondre au salam dans la salat qu'il y a un hadith authentique où il est cité. Je l'ai trouvé dans Fath al-Bari. Il se trouve aussi dans Sahih Jama'a que Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, il était en train de faire la prière et il y a quelqu'un qui est venu et lui a tendu la main pour lui dire salam alaikum. Il ne savait pas que on s'approche de quelqu'un, on lui dit salam alaikum, c'est on lui tend pas la main car il est dans la salat. Comment je vais saluer quelqu'un? Il est dans la salat, je lui donne ma main. Et cette personne, bien sûr, qui connaissait pas les règles de la salutation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tendu la main à Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala qui était dans la salat. Qu'a fait Abdullah ibn Abbas dans la salat? Il lui a tendu la main aussi et il l'a salué. Subhanallah al-Azim, regarde comment en islam, il n'est pas bien de blesser les gens. Celui-là, il m'a tendu la main. Comment vais-je vais le laisser comme ça, subhanallah al-Azim. Même dans la salat, Abdullah ibn Abbas, le savant, Habr al-Umma et Hibr al-Umma aussi, qu'a-t-il fait? Il lui a tendu la main dans la salat et il lui a rendu son salam. Naam. Reste aussi une chose. Beaucoup de sœurs posent la question, elles se disent, est-ce que de préférence, quand les sœurs se rencontrent, elles s'embrassent ou bien elles se tendent la main? La réponse, elles se tendent la main. Elles se tendent la main d'abord, car le hadith est clair, quand les deux musulmans se rencontrent, ils se tendent la main. Quand ils se tendent la main, les péchés commencent quoi? À tomber, comme a dit le messager d'Allah, comme les feuilles mortes, tombe de l'arbre. Naam. Donc, je commence quoi d'abord? Par lui serrer la main. Ensuite, si je veux l'enlacer ou l'embrasser, j'ajoute ça en plus. Mais la base, c'est quoi? C'est de se tendre la main. Je dis ça pourquoi? Parce que certaines sœurs croient que le fait de se saluer avec la main, que c'est quelque chose des hommes. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas une chose des hommes. C'est une chose mixte. L'homme le fait avec l'homme, la femme la fait avec la femme. Et l'homme ne fait pas avec la femme, et la femme ne la fait pas avec l'homme. Mais ce sont des choses qui se font dans le même sexe. Autre chose aussi. Attendez une seconde. Naam. En islam, on ne commence pas le kafir par le salam. On ne commence pas le kafir par le salam. On va voir, est-ce que c'est lui qui nous commence ou pas. Maintenant, s'il ne nous a pas commencé le salam, il ne nous a pas commencé par le salam, il nous a dit par exemple bonjour, ou là, good morning, ou là, c'est lui qui a commencé comme ça, et je lui réponds comme ça, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, c'est sa langue. Ah, c'est sa langue, et je vais pas, il ne va pas me dire bonjour, je vais lui dire wa alaikum salam. Non. Mais, est-ce qu'il est permis que je le commence dans cette langue? Est-ce qu'il est permis que ce soit moi qui commence? Je rentre dans le magasin, je lui dis bonjour. Est-ce que ça c'est permis? Ici, les savants ont divergé. Certains ont dit, on ne doit pas le commencer, ni par salam, ni par autre chose. Parce que c'est un kafir, moi je suis mieux que lui. Naam. Et je ne dois pas lui commencer, car c'est une sorte, yani, c'est toujours toi qui deviens inférieur. Naam. C'est pour ça que l'islam dit, naam, ou bien je commence par salam alaikum, ou bien c'est lui qui me commence. El Mouhim, ici, il ne va pas me dire salam alaikum, et moi je ne peux pas lui dire salam alaikum. Est-ce que je peux lui commencer dans sa langue et commencer? Les savants ont divergé, certains ont dit ça ne se fait pas, on ne commence jamais un kafir, ni par salam, ni par autre chose. Et certains ont dit, si c'est dans sa langue, c'est permis. Si c'est dans sa langue. Naam, à condition que ça ne soit pas salam alaikum. Maintenant, si le kafir me dit salam alaikum, je rentre dans un magasin, le kafir, il sait que je suis musulman, il sait qu'en islam on dit salam alaikum, et il m'a dit salam alaikum. Est-ce que je lui réponds wa alaikum salam, ou bien je réponds pas autre chose, ou bien je réponds pas du tout? En fait, ça se divise en trois, disons trois sortes. La première sorte, c'est que j'entends qu'il a clairement dit. Il a clairement dit assalamu alaikum. Il a clairement dit assalamu alaikum. Dans ce cas, naam, ma réponse, je choisis. Ou bien je lui dis seulement wa alaikum. Ou bien je lui dis wa alaikum ou salam. Parce que ça rentre dans la justice. Ça rentre dans la justice que quelqu'un te dise salam alaikum, que tu lui dises wa alaikum salam, même si c'est un kafir. Ça rentre dans la justice. Mais certains ont dit, tu lui dis seulement wa alaikum. C'est pas la peine d'ajouter salam. De toute façon, ici, il y a une divergence. Ça, c'est dans le cas où vraiment, il a été explicite. J'ai bien entendu qu'il a dit salam alaikum. Maintenant, dans le deuxième cas, yani, il va pas dire salam alaikum. Il va dire, par exemple, salam alaikum. Et salam, en arabe, ça veut dire le poison. Au lieu de dire salam, la paix, il m'a dit salam. Salam, c'est le poison. Il m'a dit salam alaikum. C'est-à-dire, le poison soit sur vous. Comme les juifs ont dit à Aïcha. Ou là, comme les juifs ont dit au messager d'Allah. Ici, qu'est-ce qu'on répond? On répond, wa alaikum. Vous m'avez dit que le poison soit sur vous. Qui soit sur vous? Wa alaikum. Je dis pas salam alaikum. Je dis wa alaikum, c'est tout. Et le troisième cas, je doute. Je ne sais pas s'il m'a dit salam alaikum, ou bien il m'a dit salam alaikum. Je ne sais pas, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que je dis? Je dis seulement wa alaikum. Je répète. Le kafir, ou bien je l'entends dire clairement et explicitement, je l'entends dire assalam alaikum. Dans ce cas, je choisis entre une des choses. Ou bien je lui dis wa alaikum, ou bien je dis wa alaikum ou salam. Maintenant, deuxième cas, je l'ai entendu clairement et explicitement dire assalamu alaikum. Ce n'est pas salam. Il a dit assalamu alaikum, le poison. Je lui dis wa alaikum. Et troisième cas, je doute. Je ne sais pas ce qu'il a dit, salam ou bien salam. Qu'est-ce que je dis? Je dis wa alaikum aussi. Wa alaikum. Naam. Pour terminer, je vais ajouter deux choses, inshallah ta'ala. Certaines personnes, naam, Certaines personnes ont pris l'habitude de, au lieu de dire salam ou alaikum quand ils rencontrent une personne, ils disent salam. Là, quand ils écrivent comme ça sur Paltok, ils disent salam. Et moi je dis, on ne dit pas salam, ce n'est pas salut. C'est-à-dire là, tu l'as remplacé par salut, 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 salam. Non, tu dis salam ou alaikum. Alaikum, c'est pas salam. Sinon, ça devient un souci. C'est comme si tu as du salut. Naam. Et je terminerai par dire que quand c'est une seule personne, il est possible de dire assalamu alayka au lieu de toi. Au lieu de dire salamu alaykum à une seule personne, on lui dit salamu alayka. Si c'est une sœur, assalamu alayki. Elles ne sont pas deux, elles ne sont pas trois. Salamu alayki. Naam. Et il y a beaucoup de hadiths des compagnons et même du prophète alayhi salam en ce sens. D'ailleurs, celui qui se trempait beaucoup dans sa salat, quand le messager d'Allah l'a vu et qu'il l'a corrigé trois fois, à chaque fois qu'il venait vers le messager d'Allah, il lui disait salam alaikum, le messager répondit wa alayka, wa alayka salam, au lieu de dire wa alaykum, parce que c'était juste une personne. Ensuite, remarquez ici celui qui se trompait dans la salade. Trois fois il s'est trompé, à chaque fois il allait revenir. Où est-ce qu'il allait? Il allait un mètre plus loin faire la salade et revenir. À chaque fois qu'il revenait, il saluait le messager d'Allah et le messager d'Allah lui répondait. C'est dire quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, propager le salam. Tu ne vas pas dire cette personne, je viens de lui parler, khlas. Non, tu as parlé mais tu l'as quitté en allant faire la salade. Maintenant tu es revenu vers elle, tu dis salam alayka. Il te répond alayka salam. Tu vas refaire la salade, tu reviens. Salam alayka, wa alayka salam. Et comme ça, j'ai dit que il y a beaucoup de hadiths, bien sûr, même des compagnons, même que Aïcha radiallahu ta'ala anha, en parlant de Jibril, qu'il lui a passé le salam, elle lui a dit wa alayhi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alayhi salam. Alayhi. Pas dit wa alaykum. Naam. Et la même chose lorsque les compagnons sont allés vers Aïcha, radiallahu ta'ala anha, pour réconcilier avec Ibn Zubayr. Hein? Quand on l'a salué, ils lui ont dit wa alaykum wa alayki. Et comme ça, il y a beaucoup de textes qui sont authentiques où il est dit qu'il est permis de dire salam alayka et salam alayki quand c'est une seule personne. Naam, j'ai terminé inshallah ta'ala le dars. Je vais répondre à vos questions dans quelques instants inshallah ta'ala. Donc moi aussi, avant de vous dire assalamu alaikum, j'ai une dernière chose à rajouter inshallah. Tfadl muslim, c'est quoi cette chose? Tfadl. C'est quel hadith? Ce hadith, cher, selon Zayd ibn Arqam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète nous passait le salam, nous répondions wa alayka salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Hadith dit Bukhari authentifié par Cheikh Al-Albani. Naam. J'ai oublié de dire que si quelqu'un nous dit salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, qu'est-ce qu'il nous reste à dire pour répondre mieux? On va lui dire wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh. Ce hadith Cheikh Al-Albani où il y a l'ajout de wa maghfiratuh, il a dit c'est un hadith bon ou alors authentique. Pourquoi? Parce que certaines personnes disent que peut-être que Cheikh Al-Albani, avant de mourir, ils ont dit, il s'est rétracté. Et il a dit que cet ajout wa maghfiratuh n'existe pas, ou là, n'est plus valable. Je dis que cette chose n'est pas vraie. Cheikh Al-Albani est mort en laissant que c'est dans la sunna de répondre wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Wallahu ta'ala a'lam. Je vous rencontre dans 5 minutes. Je vous dis salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Et subhanak allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Du mercredi 26 d'Oul Hijja, qui correspond au 24 décembre, bidna azawjil. On commence, inshallah ta'ala, par les réponses, inshallah ta'ala. Tayyib. On commence par les questions-réponses. Fadlan, inshallah. Deux personnes au Paltok et une personne à l'Inspeak. Fadlan, inshallah, la première personne, c'est Mouahidin, inshallah ta'ala. Ensuite, cherchez-moi si Ibrahim 8, si elle est là. Donc, inshallah ta'ala, pour ne pas perdre de temps, hein. Bon, je dis d'abord, salam alaikum wa rahmatullah. Pour ne pas perdre de temps, je vais lire la question. Je veux dire, Mouahidin 2. De m'afficher sa question, inshallah ta'ala, sur le paltok. La question dit, assalamu alaykum. Je dis, wa alaykum salam, rahmatullah wa barakatuh. On m'a parlé d'une veillée, qiyam al-lil, entre sœurs dans une maison, où il y aurait des salats en groupe du Coran. Des questions-réponses, est-ce que cela est légiféré dans la région? Jazakumullah khairan pour tous ces bons rappels. Le jawab, wa alaykum salam, rahmatullah wa barakatuh. Naam. Le fait de se regrouper comme ça dans des maisons pour faire qiyam al-lil, pour faire la salat en groupe, naam. Cheikh Al-Albani Allah yarhamou, dans son livre Sisila Sahiha, a dit que ça rentre dans la bida. Naam. Car le qiyam al-lil, c'est fait pour que chacun le fait seul, ou bien lui et sa femme, ou bien tarawih pendant le ramadan. Sinon, on ne doit pas se grouper comme ça comme font les frères musulmans. Maintenant, si on se groupe pour des questions-réponses, pour des débats ou pour autre chose, c'est permis, inshallah ta'ala. Mais sauf pour la salat en groupe. On la laisse, on la fait seule, bi'idnillahi azza wa jal. Sauf si, comme j'ai dit, c'est tarawih ou bien avec sa femme. C'est comme ça a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ensuite, je dis à Mouhidine de dire à Oum Ibrahim, quand elle l'avait au numéro Ibrahim 8, qu'elle lui a écrit pour lui dire que demain, inshallah ta'ala, je lui répondrai pour son email. Car j'étais occupé, bi'idnillahi azza wa jal. Naam. On passe à Ummouna 1, tafadhali, ou bien Ummouna 1. Écris la question, inshallah ta'ala. La question dit, assalamu alaykum ya shikh. Réponse, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'une femme en état de monstre qui se sent pas bien, elle a des espèces de shaitan, par exemple, ou elle se sent mal, peut-elle faire les ablutions afin de chasser shaitan? Ou cela rentre dans la bida. Barakallahu fikum. Car je crois que le prophète alayhi sallam a fait des ablutions en état de janaba. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. En état de janaba, il est permis de faire des ablutions pour ne pas dormir comme ça en état de janaba. Même que, on peut faire, si on ne peut pas faire les ablutions, on peut faire le tayammum. Pour ne pas dormir avec la janaba. Naam. C'est pour ça que certains compagnons, dans un hadith qui est bon, hadith qui est hasan, certains compagnons, naam, qui étaient avec la janaba, quand ils rentraient à la certaine mosquée pour écouter par exemple un dars, Naam, il faisait le wudu et rentrait. Quant à la femme, ce que je sais, c'est que quand elle a les métrorragies, Naam, quand elle a les métrorragies, quoique les métrorragies, ça soit de la souillure bien sûr, mais elle doit faire des wudu. Et elle fait des wudu pour chaque prière. Comme c'est dans le hadith. Reste à savoir, celle qui a des monstres, est-ce qu'elle peut faire comme ça le wudu? Naam. Je n'ai jamais entendu ça, ni lu cela. Maintenant, si elle le fait, pas dans le sens de ibadah, peut-être juste pour le shaitan, naam, peut-être que c'est possible. Wallahu alam. Naam, pour éloigner le shaitan, ce n'est pas pour faire la prière, car la prière n'est pas acceptée, ni pour lire le Coran, ni rien. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et j'aurai, inshallah ta'ala, une réponse bientôt, bi'idna azza wa jal. Naam. On passe, inshallah ta'ala, à Abu Qais, dans le Paltok. Tfadhal. Abu Qais a dit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réponds, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Ma question n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui, mais plutôt le cours de mercredi dernier. Je voulais savoir comment se comporter avec les gens qui quittent leur pays musulman pour venir vivre en France clandestinement et qui, après avoir fait la salat à la mosquée, demandent de l'argent. Doit-on leur en donner? Et si oui, est-ce que l'on n'entretient pas leur péché, à savoir partir d'un pays musulman, même si la niya de celui qui donne est de faire le bien? Barakallahu fik shir, Allah yazidak l'ilm, salamu alaykum shir. Je dis wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, il faut faire la différence entre celui qui est venu dans un pays de kufr et qui a l'intention de s'y installer par exemple, naam, et qui n'a pas d'excuses. S'il était venu pour, par exemple, se soigner, Inch'Allah me fiche mouchkil. S'il est venu pour demander une certaine science, pour faire une certaine spécialité et repartir, ce n'est pas, Inch'Allah ta'ala, mouchkil. Mais s'il vient pour s'installer comme ça, dans un pays de kufr, et comme j'ai dit, s'installer peut-être pour de bon et qu'il n'a pas de raison, celui-là, on ne doit pas l'aider, bi'idnillah azza wa jal. Reste si sur la deuxième sortie. Maintenant, Naam, il est venu. C'est-à-dire que on sent de lui que vraiment, par exemple, il va mourir de faim. Qu'il va, comme ça, yani, dormir dans la pluie ou sous la pluie, etc. Celui-là, on l'aide juste quelques temps. Naam, on l'aide juste quelques temps pour savoir, yani, qu'est-ce qu'il va faire le temps qu'il reparte chez lui. Le temps qu'il reparte chez lui, dans son pays, il l'azole. Pourquoi? Pour ne pas prendre des péchés d'aider quelqu'un qui a laissé un pays musulman pour aller vivre dans un pays chez les kofars. Il va se remplir de péchés et c'est nous qui l'avons aidé. C'est pour ça qu'on lui dit, tu as besoin d'argent pour repartir chez toi, etc. Le temps que tu te prépares pour ton départ, on peut t'aider, il l'azole. Même on va t'acheter même des cadeaux pour que tu repartes chez toi. Mais non pas pour t'installer ici. C'est pour ça qu'on doit lui demander, hein, yani, si c'est possible, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib, on passe bien à ta'ala au Maysan. Tafazali. Pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah, le temps que la sœur écrive, on passe à Firouz Dilmi. Tafazali. Écrit 1 si la question est terminée. Chaque personne qui termine sa question, elle écrit 1. Alhamdulillah. Donc la question dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une femme musulmane, je dis, avant de répondre, je dis alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une femme musulmane qui est divorcée avec des enfants a-t-elle le droit de faire du commerce dans les marchés? Réponse bi'idna azawajal. Naam. Cela dépend. Naam, la femme divorcée a le droit de faire le commerce. Cela dépend. Qu'est-ce qu'elle va vendre, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que quand elle va vendre, elle va se mélanger par exemple avec les hommes, non, se mélanger avec les hommes et être yani, dans la mixité, ou bien par exemple vendre dans un carré comme ça éloigné, non, pour qu'elle ne soit pas côte à côte avec l'homme. Non, sinon, il lui est permis de faire le commerce comme il est permis de faire le commerce à l'homme. D'ailleurs, Khadija radiallahu ta'ala anha faisait le commerce et envoyait Abu Bakr Siddiq lui faire le commerce. Donc, reste à voir, est-ce qu'elle vend quelque chose de licite et est-ce qu'elle ne se mélange pas avec les hommes pour ne pas tomber dans la fitna. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bonjour, tafadhali. Terminé, inshallah, la question. La sœur Oumaysen n'a pas de question, elle a laissé sa place à une autre sœur, Ortsonia, ou Allah Ta'ala Alam. La question dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Réponse, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'allais répondre à la question de la sœur. Maintenant, je n'ai plus la question car je suis rentré, je suis rentré de nouveau, donc je ne trouve pas la question. Allez, premièrement. Et deuxièmement, j'allais faire la remarque que la question n'était pas comprise. Il y avait un mot que je n'avais pas compris. C'est écrit l'oreille. L'oreille. On a posé la question sur l'oreille, etc. Qu'est-ce que ça veut dire l'oreille, etc. Donc, réécrivez la question. Inch'Allah ta'ala. Je ne l'ai pas comprise. Naam, la question de Ufti Sonia. Répétez-la, Inch'Allah. Dans le Mouta de l'imam Malik, un hadith indique que la salat n'est pas valable pour une personne portant de l'or, etc. Mais il n'est pas précisé si cela s'applique également à une femme, qu'en est-il pour elle? Naam. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, d'abord, que le plus juste, c'est que même si c'est pour l'homme, la salat est valable avec des péchés. Ce n'est pas les nuls. Si l'homme fait la salat avec une bague en or, ou une chaîne en or, sa salat est valable, mais il a des péchés d'avoir fait yani, la salat avec de l'or. Sa salat n'est pas complète. Alors, c'est pour l'homme. Quant à la femme, si elle est de l'avis qu'il lui est permis de porter de l'or, donc, et c'est l'avis de la plupart des savants, dans ce cas, il n'y a aucun inconvénient à faire sa salat avec de l'or bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. On passe, inshallah ta'ala, à Salman al-Farisi dans le InSpeak et les sœurs, les personnes auxquelles j'ai répondu, Inch'Allah ta'ala, qu'ils descendent leurs mains. Barakallahu fiyum, barakallahu fiyum. Salman Farisi, tafadhal. Celui qui a posé la question dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Réponse wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Écrivez mon numéro 1 dans le patron si vous m'entendez. Pendant la khutbah du vendredi, l'imam étant sur le mimbar, un frère m'a passé le salam en pensant bien faire. Je ne lui ai pas répondu bien qu'il insistait. À la fin de la prière, je me suis précipité vers lui pour lui expliquer mon comportement et m'excuser. Ai-je bien fait? Que doit-on faire dans cette situation? Jazakumullahu khairan. Naam. Le vrai, inshallah ta'ala, c'est que le plus juste, on ne lui répond pas le salam. Sauf si c'est l'imam qui est sur le mimbar, si c'est lui qui nous a dit salam alaykoum, on lui répond. Ou bien, on peut lui répondre quand l'imam s'assoit entre les deux khutbahs. Quand il s'assoit entre les deux khutbahs, on n'est plus dans la khutbah. On peut passer le salam, on peut voir la montre, on peut lire un livre, on peut... Il n'est pas dans la khutbah. Mais, même si c'était dans la khutbah, en plein khutbah, tu pouvais lui répondre avec un geste de la tête. Un geste de la tête. Car, dans le hadith authentique, hadith mawquf, que Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Omar ibn Khattab, quand il voyait quelqu'un, yani jouer ou là quelque chose dans la mosquée ou là, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un caillou et le jetait comme ça avec le caillou, un petit caillou. Naam. Quand il se retournait vers lui, c'était pour attirer son attention. Quand il se retourne vers lui, qu'est-ce qu'il lui faisait à tout moment? Il mettait son doigt sur sa bouche. Ça veut dire tais-toi. Mais vous n'avez pas remarqué, vous avez remarqué, il lui dit pas tais-toi. Il met un geste, comme ça, un doigt sur sa bouche. De là, les savants disent qu'il est permis pendant la khutbah de parler avec les doigts, avec ses mains seulement, de faire des gestes quand c'est une nécessité. Naam, on fait des gestes à quelqu'un, on lui dit comme ça, par exemple, quelqu'un qui est debout, on lui dit assieds-toi, comme ça, avec notre main. Ça veut dire, on lève la main, on la descend, ça veut dire assieds-toi. Ou bien on lui fait comme ça de la geste, on lui dit sors, et comme ça, seulement avec les gestes, quand c'est nécessaire. Et à la fin, tu es parti vers lui, tu t'es excusé et tu lui as montré qu'on ne parlait pas dans la khutbah. C'est bien ce que tu as fait. Bi-idhnillahi azza wa jal. Tayyib. On passe, inshallah ta'ala, à Shams. À Shams, naam. Pourquoi je dis à Shams? Parce que je ne sais pas si Dufour, si elle a posé sa question ou pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on est. C'est pour ça que je demande à ceux et celles auxquels j'ai répondu de descendre leurs mains, inshallah ta'ala. C'est doux sur. Tayyib. Oumouna, inshallah ta'ala, descend ta main, bi-idhnillahi ta'ala. Doux sur, tafadlani. La question dit. Salam alaikum. Je réponds alaikum salam wa rahmatullah. Une sœur demande. Naam. Une sœur demande. Attendez, je lis la question. Naam. Tayyib. Une sœur demande. Une femme divorcée peut-elle se remarier sans le consentement de la mère car son père est décédé ou faut-il un mahram pour valider son mariage? Je répète, une femme divorcée peut-elle se remarier sans le consentement de sa mère, de la mère, car son père est décédé ou faut-il un mahram pour valider son mariage? Dans tous les cas, une femme ne peut se marier sans le tuteur. Jamais en islam, une femme ne peut se marier sans le tuteur. Comme a dit le hadith, s'il n'y a pas de tuteur, c'est le gouvernant alors qui devient son tuteur. Naam, c'est pour ça que si jamais elle ne trouve pas le tuteur, c'est le gouvernant. S'il n'y a pas le gouvernant, c'est un imam. S'il n'y a pas un imam, au moins un frère qui la marie. Mais se marier sans aucun tuteur, naam, ce n'est pas valide en islam. Et est-ce qu'on peut se marier sans le consentement de la mère? Naam, en islam, le mariage est valable, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Bien sûr, elle va perdre sa mère. Car je ne crois pas qu'une mère accepte que sa fille se marie sans son consentement. Mais le mariage est valide s'il y a le tuteur. S'il y a le tuteur. Ensuite, la mère, bien sûr, des fois, elle a la tête à tête, si je puis dire, comment qu'on dit ça, que dur. Naam, sa fille a trouvé quelqu'un qui lui convient, qui remplit toutes les conditions et elle veut pas. Ici, elle a la tête dure et elle a des péchés quand elle l'empêche de se marier. Et dans ce cas, s'il y avait un jugement, s'il y avait un tribunal musulman, il aurait convoqué cette mère pour, naam, d'ailleurs, pourquoi il la convoque? Elle n'a rien à voir avec le mariage. Ça veut dire que sa mère, sa fille peut se marier sans elle. Mais je dis que pour ne pas perdre le lien avec elle, il faut faire le maximum pour la convaincre, bi-idhnillah, et si on peut pas, nous, on lui envoie notre tante, nos cousines, notre grand-mère, nos voisines, et comme ça, les personnes qui peuvent la convaincre, bi-idhnillah. On passe à Shams, inshallah ta'ala. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب. Vous m'entendez dans le InSpeak. الحمد لله. Shams dit. السلام عليكم. Je dis عليكم السلام ورحمة الله. L'imam de notre quartier, Soufi, il a envoyé un couple en Égypte pour prier sur la tombe d'un mort afin de lui demander d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah Ta'ala. La prière derrière cet imam est-elle valide? Dois-je prévenir à l'encontre de cet imam? Barakallahu fik. La réponse? Vous êtes trop près du micro. Naam. Jazakallahu khair. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, naam. S'il y a une autre mosquée, naam, on doit aller à l'autre mosquée, on ne doit pas faire de prière derrière cette personne. S'il y a une autre mosquée, on doit aller vers une autre mosquée et on ne fait pas de prière derrière cet imam. Et comme elle dit ici, est-ce qu'on doit prévenir à son encontre? Naam. On doit prévenir à son encontre le maximum de gens. Quiconque on le trouve, on lui dit. On lui dit, celui-là, il exhorte les gens vers le shirk. Il exhorte les gens vers le shirk. Naam, celui-là, il ne faut pas faire la prière derrière lui. Et il faut aussi, yani, avertir les gens et mettre en garde contre lui. Peut-être que comme ça, il va se réveiller. En voyant les gens le fuir, peut-être qu'il va revenir et faire la tawba vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On va sur le pas, donc inshallah ta'ala. Afoun, on va sur le inspik. Ummi. Tafadhali. Salman al-Falisi, si tu peux, inshallah ta'ala, descendre ta main. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Vous écrivez un quand vous terminez, inshallah. Alhamdulillah. La question dit, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je dis wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai compensé mon jeûne de l'année dernière en nourrissant des nécessiteux. Je dois à nouveau compenser mon jeûne de cette année et j'ai lu que je ne pouvais pas nourrir deux fois la même personne. Est-il possible de nourrir cette année les mêmes personnes que l'année dernière? Barakallahu fikum. Réponse. Naam, inshallah ta'ala. Cette année, tu peux nourrir les mêmes personnes que l'année passée. Parce que c'est une autre année et un autre jeûne. Mais si c'était le même mois, par exemple, naam, ou bien la même année, tu devrais nourrir à chaque fois des personnes différentes, sauf s'il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule personne dans ce quartier, par exemple, qui est musulmane. On va nourrir cette seule. Naam. Mais tant qu'il y a d'autres personnes, on doit changer de personne. Mais, comme j'ai dit maintenant, puisque c'est un autre Ramadan, c'est un autre jeûne, on peut nourrir les mêmes personnes de l'année passée, Inch'Allah ta'ala. Naam. Abu Abdurrahman, tafadhal dans le Paltalk. Oum Souleyman dans le Paltalk, tafadhali. Puisque Abu Abdurrahman, peut-être qu'il n'est pas là. Oum Souleyman, si tu as terminé, tu écris numéro 1. Taïb. Oum Souleyman a dit, Salam alaikum. Je réponds, alaikum salam. Wa rahmatullah wa barakatuh. Elle a dit, j'aimerais avoir plus d'explications en ce qui concerne les pertes blanches. En effet, il semblerait que ces pertes annulent les ablutions selon Cheikh Ibn Uthaymeen. Que Dieu lui fasse miséricorde. Je trouve cela très contraignant, sachant qu'il peut arriver que je me trouve dans un endroit où il est impossible pour moi de vérifier ma propreté. Ainsi, que de refaire mes ablutions. Pouvez-vous me donner les différents avis des savants ainsi que les dalils? J'aimerais également connaître la référence, le numéro du hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait taymoum avant de se coucher après avoir eu un rapport. Jazakumullahu khayran. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez dans le palto, dans le inspeak? Alhamdulillah. La femme qui a des pertes, naam, les pertes, inshallah ta'ala, la vie le plus juste, inshallah ta'ala, que ce n'est pas de la souillure, que ce n'est pas de la souillure, car il y en a même qui ont dit que c'était de la souillure. Alhamdulillah, la vie le plus juste, que ce n'est pas de la souillure. Reste en ce qui concerne, est-ce que ces pertes qui ne sont pas de la souillure, est-ce qu'ils annulent les ablutions ou ils annulent pas? Cheikh Ibn Uthaymeen dit que ça a annulé les ablutions parce que quand même ça sortait de cet endroit et que toute chose qui sort de cet endroit annule d'après lui les ablutions. Il y a un deuxième avis de certains savants et je ne sais pas qui sont exactement ces savants, mais cette chose là, est-ce que les pertes annule les ablutions ou pas? Une fois, cela fait pas très longtemps, j'en ai discuté avec le frère et cheikh Abdel Malik Ramadani, hafidhahullah, que tout le monde connaît, naam, et il a dit que d'après lui, la vie le plus juste, chez lui d'abord, naam, chez lui toujours, c'est que ça n'annulait pas les ablutions. Et se basant sur quoi? Naam, cet avis se base sur la règle qui dit que l'asl, quand il n'y a pas de dalil, l'asl c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas un dalil clair qui dit que la femme, quand elle a des pertes, elle a annulé ses ablutions. Tant qu'il n'y a pas un dalil clair comme ça, alors celui qui dit ça annule, c'est lui de donner les dalils. C'est pour ça que je dis à Oumou Souleymane, celui qui te dit que des pertes annulent les ablutions, alors c'est à lui de donner le dalil, et pas aux autres. Pas à celui qui dit ça n'annule pas. Et premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne le hadith que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, naam, avant de dormir, faisait le taymoum, naam, c'est un hadith que j'ai lu dans Fath al-Bari. Il a dit qu'il était hasan ou bien bon. Et je l'ai trouvé encore une fois dans les livres de Cheikh al-Albani, l'Arhmou. Mais je ne peux pas me rappeler maintenant exactement où se trouve ce hadith et son numéro. Maintenant, je ne peux pas. Mais ce hadith est au moins bon. Maintenant, tout en parlant, je suis en train de jeter un coup d'œil sur Fath al-Bari. Ce hadith, je l'ai écrit quelque part dans mon cahier où je résume. Je l'ai écrit quelque part pour savoir dans quel tome il est et dans quelle page. Reste maintenant, si je vais le trouver maintenant en train de parler, je cherche, ou bien je ne vais pas le trouver, Allahu A'lam. Ah, je vais donc prendre quelques instants pour essayer de le trouver, Inch'Allah Ta'ala. Ira al-Babbuyur, Ira al-Hajj, Sahm, Jana'iz, Zakat, Tahajjud, Salat, Kusuf, Quran, Salat. Ira, Jumu'a al-Khawf. شوف وين قبل باب الوضوء الصلاة. طيب ان شاء الله تعالى la prochaine fois je donne le numéro, je donne pas le numéro, c'est à dire la page et le tome, la page et le tome بإذن الله عز وجل. نعم. Je passe inshallah تعالى à Muslim 029. تفضل. Alhamdulillah, Muslim a dit salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réponds alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratou. Est-il vrai que tous les savants sont d'accord que tous les petits signes de la fin du monde sont passés? Peut-on dire que la fin est proche, barakallahu fikoum? Non. Je voudrais répondre en disant que pas tous les savants sont d'accord. Parce que l'avis le plus juste, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup, même certains ou là beaucoup, de petits signes qui n'ont pas encore eu lieu. et qui vont venir quand vont venir les grands signes. Car l'avis le plus juste, c'est que pendant les grands signes, au milieu des grands signes, il y a des petits signes qui vont avoir lieu. C'est-à-dire le grand signe, par exemple le soleil, a commencé à sortir par exemple de l'ouest, et ensuite il va y avoir un ou deux petits signes. Ensuite, par exemple, Isa alayhi salam va descendre, et ensuite un petit signe, et comme ça. Donc pas tous les petits signes ont eu lieu. Il reste certains signes qui n'ont pas encore eu lieu. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. On passe à Abdillah dans le InSpeak. Abdillah dit salam alaykoum. Je dis wa alaykoum salam wa rahmatullah hayakillah. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir votre avis sur la vente salam. Ses conditions et comment ça se passe. Est-ce qu'elle parle de Bay' al-Salam? Je repose la question, Abdillah. Est-ce que tu parles de Bay' al-Salam? Si c'est oui, écrit numéro 1. Et je dis à Oumou Souleyman qui m'a posé la question sur le hadith du Taïmoum que je vais lui répondre, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Bay' al-Salam, c'est huwa bay'u shay'in fi dhimma. Bay' al-Salam, c'est de vendre quelque chose. Écoutez bien ce que c'est Bay' al-Salam, ça s'appelle aussi Bay' al-Salaf. C'est de vendre quelque chose qui n'existe que dans l'esprit. Elle n'est pas là, par exemple, dans ma maison ou là, elle est quelque part. Non. Mais elle est dans l'esprit. Par exemple, je dis à quelqu'un, je vais te vendre une Mercedes de couleur noire avec, par exemple, option des vitres, par exemple, qui s'ouvrent électriques, avec, par exemple, noir métallisé. Cette voiture, elle n'est pas dans le garage, elle est seulement dans ma tête, elle est dans mon esprit. Je lui dis, elle est en cuir, elle est ceci, elle est cela, et il faut là deux conditions. La première, c'est qu'il me paye d'avance. Il me paye maintenant, et non pas, il va me payer petit à petit. Il me paye maintenant, je lui dis, par exemple, c'est 100 millions. Première condition. Deuxième condition, il faut qu'on se mette d'accord pour la date de la livraison. Je lui dis, c'est 100 millions, va me ramener l'argent, je te ramène la Mercedes dont je t'ai donné les descriptions, je te la ramène dans 6 mois. Et dans 6 mois, il vient, je lui donne la Mercedes et j'ai pris l'argent il y a 6 mois. C'est ça, Bay' al-Salam, c'est de vendre quelque chose, hein, qu'on n'a pas encore, elle est seulement décrite dans notre tête, et on prend l'argent avant. On prend l'argent, yani, et on délivre la marchandise après. Oum Abdillah, est-ce que c'est compris? Et comme j'ai dit, les deux conditions, c'est quoi? C'est qu'elle soit décrite dans la tête, et qu'on prenne l'argent maintenant, et qu'on la délivre, on cite le temps exact où on doit quand on doit la délivrer. Est-ce que c'est compris, Oum Abdillah? Et c'est normal, subhanallah al-azim. Et c'est permis par le Coran, la sunna et l'ijma. C'est permis par le Coran, la sunna, le hadith et le consensus des sahaba, que c'est permis de faire cette chose. Wa fiki barakullah. Naam. Donc maintenant, on peut l'appliquer. On peut dès maintenant vendre quelque chose, comme j'ai dit, qui se trouve, que j'ai décrit dans ma tête, à condition de prendre l'argent d'avance et de la donner au temps voulu. Taïb, je dis à Oum Souleyman, pour la question du Taïmoum, elle trouvera ça dans Fath al-Bari, Fath al-Bari, naam, de Sahih al-Bukhari, Fath al-Bari, Kitab al-Wudu. Chapitre des ablutions, donc tome 1, page 394. Tome 1, page 394. Ibn Hajr a cité un hadith, il a dit que ce hadith Rawah l'a rapporté le Bihaqi. An Aisha, notre mère, radiallahu ta'ala anha, bisanadin Hassan, avec un isnad bon, Hassan. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a ajnaba. qui se trouvait dans une janaba, fa'arada an yanam, et qu'il voulait dormir, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tawadda'a ou tayammama. Il faisait les ablutions ou bien faisait le tayammum. Et il se trouve aussi, comme j'ai dit, dans un des livres de Cheikh Al-Albani, Allah yirahmo. Naam, Abu Abdurrahman, tafaddal. Abu Abdurrahman, tafaddal, j'attends ta question. Sinon, on passe à Abu Ishaq, 62, pour ne pas perdre de temps. Naam, pour le hadith de... Pour le hadith que le messager d'Allah, quand il était en Janaba, il faisait aussi le tayammum, vous pouvez le trouver dans le livre Adab Zifaf de Cheikh Al-Albani Rahimahullah. Alors, ou bien Abu Abdurrahman ou bien Abu Ishaq, tafaddal. Maintenant, les deux ont posé la question. On commence par Abu Ishaq parce que sa question est terminée bi-idhnillahi ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته الشيخ un converti n'a pas le droit d'hériter de parents kuffars mais s'il veut faire la hijra est-ce que cela lève l'interdiction sachant que sinon c'est les kuffars qui vont s'en servir ou alors peut-il prendre l'argent et donner en sadaqat à des frères barakallahu fikum est-ce que ses parents sont morts ou la vivants je pose la question est-ce que ses parents sont morts ou la vivants mort, naam, vous savez que quand les parents meurent, le musulman n'a pas le droit d'hériter un kafir. Ni le kafir n'a le droit d'hériter ses enfants s'ils sont musulmans. C'est pour ça, je profite ici pour dire à ceux qui ont des parents kuffar et qui ont des biens, naam, de faire de sorte de leur demander, yani qu'ils leur donnent des dons maintenant. De leur faire des dons. Car s'il va mourir, c'est interdit de l'hériter. Alors, on lui demande de nous faire un don. S'il nous fait un don, c'est permis que le kafir fasse un don à un musulman. Mais ce qui n'est pas permis, c'est s'il meurt de l'hériter. Naam. Et les parents, si on leur explique qu'on ne peut pas hériter, etc., c'est sûr, Inch'Allah Ta'ala, s'ils aiment leurs enfants, qu'ils vont leur faire des dons. C'est sûr. Naam. Maintenant, si maintenant il est mort, on ne peut plus se servir de cet argent, sauf, Wallahu A'lam, je dis Wallahu A'lam trois fois, si on est dans la daroura. Sauf si on est dans la daroura, dans ce cas on ne doit prendre que ce dont on a besoin. Et l'autre, on doit le donner comme sadaqat aux nécessiteux musulmans. On doit le donner aux musulmans pour qu'ils en profitent, naam, et on ne doit pas le toucher nous. Sauf Wallahu A'lam, si on est vraiment dans la daroura, peut-être comme la hijra, peut-être pour manger, pour ne pas mourir, peut-être, naam, car si les autres ont le droit, naam, je ne vois pas moi qui suis dans la daroura, pourquoi je ne prends pas un peu juste pour eux, juste pour éloigner la daroura. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Abu Abdillah s'est sans toucher de livre. C'est permis, bi'idhn azzawajal. Maintenant, si elle n'a pas appris et elle est obligée de toucher le livre, qu'elle mette par exemple des gants parce que elle est excusée étant une enseignante car naam, c'est quelque chose yani, qu'elle doit faire. Dans ce cas, si elle a les menstrues, elle doit mettre des gants par exemple. Naam. Comme a dit Cheikh Ibn Baz, Allah yirhamo. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib. Abu Abdurrahmani dans le inspect, tafaddal. Abu Abdurrahmani, dans le inspect, es-tu là? Écris numéro 1 si tu es là. Sinon, on passe à Abu Zaki 45. Est-ce que tu es là, Abu Abdurrahmani? Écris numéro 1 si tu es là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Abu Abdurrahmani a dit... Dans la ville où j'habite, il y a une grande mosquée près de chez moi, où il n'y a pas de tendance spécifique. Par contre, à 3 km, il y a une moussalla. Il y a une moussalla où il y a beaucoup de frères salafis. Non. Mashallah, il y a beaucoup de salafis. On y fait notamment la Jumu'ah. Par contre, le frère qui dirigeait. Je dois relire la question parce que. Enfin, je dois relire la question parce que j'avais pas pris le micro sur le paletot. Vous m'entendez sur le paletot? Muslim, vous m'entendez maintenant? Alhamdoulilah. Un frère dit. Dans la ville où j'habite, il y a une grande mosquée près de chez moi où il n'y a pas de tendance spécifique. Par contre, à 3 km, il y a une moussalla où il y a beaucoup de frères salafis. On y fait notamment la Jumu'ah. Par contre, le frère qui dirigeait la Jumu'ah s'était renseigné pour savoir si on avait le droit de faire la Jumu'ah. Une des conditions était que les 5 salats soient en permanence faites dans cet endroit. Or, il m'est arrivé d'y aller prier et de ne trouver personne. Que dois-je faire? Continuer la Jumu'ah dans cet endroit ou aller dans la mosquée près de chez moi? Jazakumullahu khairan. Naam. Si, inshallah ta'ala, tu faisais la Jumu'ah près de chez toi, c'est le mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith. Il y a un hadith qui dit que on fait la salat dans la mosquée la plus proche. Et ce hadith se trouve dans Sahih al-Jama. Il y a le nahi. Le nahi, c'est-à-dire l'interdiction de quoi? De sauter. Comment on dit ça? De sauter sur les mosquées. C'est-à-dire de laisser sa mosquée, par exemple, du quartier et d'aller vers une autre mosquée. En général, on fait toujours la salat dans la mosquée qui est la plus proche de nous. Bien sûr, sauf, comme j'ai dit, si on y va, par exemple, pour le Ain, parce que dans notre mosquée, il n'y a pas d'Ain, ou dans notre mosquée, il y a des bid'ah, etc. Ça devient une excuse, Inch'Allah Ta'ala. Mais le fait que tu es allé et que tu n'as pas trouvé là-bas la salat, ce n'est pas une raison de ne pas faire la Jumu'ah. Si maintenant, de temps en temps, il y a des gens qui ne viennent pas et qui font la salat à la maison, et que la Jumu'ah se trouve le vendredi, on peut la faire bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadl. Abu Abdillah Salafi dans le patouk. Tfadl. Il a dit c'est une condition les 5 salats. La condition, ce n'est pas seulement les 5 salats. Naam. La condition, c'est que ça soit pas. Que ça soit pas, yani, un petit moussallah comme ça, un petit moussallah naam, où on se regroupe que de temps en temps. Mais ça doit être un moussallah où on fait toujours la salat. Naam, on fait les 5 salats. Mais si jamais j'ai dit, si jamais pour une salat par exemple, les gens ne sont pas venus ou là, ce n'est pas, yani, ce n'est pas une interdiction pour faire la Jumu'ah. Mais en général, on doit, yani, c'est un endroit où on doit faire les 5 salats. Si on y va que pour la Jumu'ah, non. Naam. Si on y va que pour la Jumu'ah, non. C'est-à-dire, si on ouvre cette moussalla que pour la Jumu'ah, non. On doit y faire la salat. Naam. On doit se regrouper ça pendant la semaine, bi'idnillah ta'ala. Naam. On doit se regrouper. Mais si on ne se regroupe pas de temps en temps, ce n'est pas grave. Naam. Fadlal. Naam, Inch'Allah, prends le micro, c'est mieux. Abu Abdillah, prends le micro.
Enfin, moi j'ai une question, c'est Inch'Allah, c'est que je vais la lire parce qu'enfin on l'a écrit. Donc, en fait, c'est une sœur, elle était enfin une sœur. Enfin, attends, je vais la lire, Inch'Allah. C'est voilà. Ma question, Inch'Allah, c'est là. Une personne, une femme qui s'est mariée au temps où elle était ignorante de la charia et de la religion dans sa globalité, et je le connais, ces gens-là. Ils ont eu des enfants, c'est-à-dire des filles. Et avec cet homme, le mari, mais ils ne sont pas mariés dans la charia, vu qu'ils étaient ignorants de l'islam et de ses règles. Mais vu que dans la charia, ces enfants-là sont issus de zina, donc l'adultère, cette femme et cet homme ne savaient pas. En ce moment, cette femme sait dans quelle erreur elle a pataugé. En ce moment, ils sont divorcés. Et cette femme regrette bien qu'elle ne savait et qu'Allah Azzawajal ne punit pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Est-ce que ces filles peuvent se dévoiler devant leur père? Parce qu'en fait, ils étaient ignorants à 100% de l'islam. Mais maintenant, cette femme-là, elle regrette. Elle était carrément ignorante. Voilà, et je les connais. Ils allaient devant les tombes, tout ça. Et c'est les gens, tu vois, les Arabes, tout ça, qui ils vont devant les tombes. Ils connaissent l'islam, c'est que de nom.
Et en fait, ils n'étaient pas mariés selon la charia. Et ils ont eu des faits. Mais est-ce que ces faits, vu qu'ils étaient ignorants de l'islam, est-ce qu'aujourd'hui qu'ils savent qu'Allah Azzawajal les a guidés, est-ce que, avec ce regret, est-ce que les filles ou le père, est-ce que le père il est leur père ou non? C'est ça que je veux. Parce qu'avant, ils étaient ignorants, on va dire, à 97% d'islam. Et si, enfin, si on apprend la réponse, moi j'ai juste une deuxième, enfin, Inch'Allah, c'est que, est-ce que dans l'islam, la fille, c'est une obligation pour les enfants de porter le nom de leur père? Est-ce que c'est une obligation? Et si c'est pas une obligation, et si c'est une obligation, alors si le père, il fait du chantage pour les mettre à son nom, pour que, comme quoi, comme ça, il a les papiers pour qu'il vienne en France, etc., etc. Wallahu a'lam wa ahkam.
Et machallah pour les cours que vous nous donnez. Alhamdulillah. Barakallahu fikach. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Alhamdulillah. J'ai dit, je redis, inshallah ta'ala, que non. Il a dit ici, ils étaient mariés, oui, mais dans le haram. J'ai dit que quand des gens non, ne sont pas mariés et qu'ils ont des enfants, ça s'appelle des enfants de la zina, bien sûr. Des enfants de la zina. L'avis le plus réputé des savants, c'est que quoi? C'est qu'il était interdit qu'il prenne le nom du père. Prenne le nom du père. L'avis le plus réputé des savants, c'est que ces enfants sont quoi? Sont les enfants de la mère et non pas les enfants du père. Mais malgré cela, si cet homme qui a fait la zina avec la femme et a eu des enfants se marie avec elle, s'ils sont des kofars, bien sûr, ou bien si ce sont les deux des musulmans, ou bien lui musulman et elle chrétienne, s'il se marie, la fille peut ne pas se dévoiler devant ce père biologique, parce qu'elle devient une rabiba. Elle devient la rabiba, c'est comme la belle-fille. Elle peut ne pas se dévoiler devant lui, à condition qu'il sait quoi, marié avec elle, avec sa mère. Maintenant, il y a un deuxième avis, celui de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et Abu Hanifa et Ishaq ibn al-Harawi, rahimahullah, qui dit que si jamais il n'y a aucun homme qui dit ses enfants sont mes enfants, à part le père biologique, ces savants ont dit qu'il était permis qu'on lui donnait le nom du père biologique. Dans ce cas, bien sûr, ils deviendraient comme de vrais enfants. Ça, c'est le deuxième avis, mais ce n'est pas l'avis le plus connu et ce n'est pas l'avis le plus réputé. Non. Reste quoi encore? Donc, la condition. Maintenant, pour dire qu'ils étaient des djouhal, etc., non, et que Allah Ta'ala ne châtiait pas une personne qui ne connaissait pas, qui a fait la tawba, etc., non, la réponse, c'est de dire que c'était, puisque ce sont des musulmans, la demande de la science est une chose obligatoire. Non. Donc, ils ont failli à l'obligation de la quête de la science. Et que quiconque ne demande pas la science, il est quoi? Il a fait un péché. C'est pour ça qu'ils devaient demander la science qui leur aurait montré qu'il était interdit qu'ils fassent cette chose sans le mariage. Et que si jamais ils la font, ils vont avoir des enfants qui sont pas, qui seront pas légiférés d'après l'avis de la plupart des ulama. Là, est-ce qu'il reste une chose dans celle-là? C'est la chose que je voulais dire aussi. Et dans le cas où le mari ou l'homme, le père biologique qui fait la zina avec une femme, et là, il a des enfants, dans le cas où il se marie avec elle, dans le cas où il se marie avec elle, si bien sûr elle n'est pas musulmane, il est kafir, car dans ce cas ils ne peuvent pas se marier, mais s'il est lui musulman et elle, il y a une chrétienne, ou bien lui musulman et elle musulmane, et ils se marient, dans ce cas, la fille se dévoile devant l'homme parce que elle est devenue quoi? Elle est devenue sa rabiba, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Voilà, inshallah ta'ala. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc il a dit barakallah. Je dis au fika barakallah. Fadl le musulman, quelle est la chose que tu n'as pas comprise? Fadl. Si tu veux prendre le micro, réécris-la vite. Une fille de Zina ne peut pas se dévoiler devant le père biologique. C'est bien ça, Naam. C'est bien ça. Exactement. Sauf si le père biologique s'est marié avec sa mère. Sauf si le père biologique s'est marié avec sa mère. Il a fait les papiers après, il s'est marié avec les témoins, etc. Tfadl, prends le micro.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, cher, il y a une chose que je comprends pas par rapport à ça. Il y a du son, alhamdoulilah. Il y a donc, une fille qui est issue de Zina. Elle ne peut pas se dévoiler devant le père biologique. Donc, s'ils ne se sont pas mariés par la suite. Mais s'ils ne se marient jamais, ça veut dire donc cette fille, elle pourra jamais se dévoiler devant son père. Et la chose que je comprends pas, en fait, c'est que la femme voilée, elle peut enlever son voile devant toutes les personnes qui lui sont interdites au mariage. Ça c'est vrai ou pas, cher? La femme qui a le voile, non. Donc ce père biologique, dont elle est issue de Zina, s'il se marie jamais, elle, de toute façon, elle, c'est interdit pour elle de se marier avec cet homme, vu que biologiquement c'est son père. Elle ne peut pas se marier avec. C'est ça que je comprends pas, pourquoi elle ne peut pas se dévoiler devant. Oui, attends, d'accord. Très bien, chérie.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. En fait, ce père biologique, l'âme ne peut jamais se marier avec cette fille parce qu'il l'a eu de son, il l'a eu de son propre, de sa propre, disons, sa propre eau. Non, son propre liquide. C'est pour ça qu'il ne peut pas se marier avec elle. Mais l'islam, non, l'islam va lui donner une punition. Non, une punition. Non, cette fille devient étrangère pour lui. Elle devient étrangère pour lui et il n'a plus aucun rapport devant elle. C'est pour ça que elle doit se voiler devant lui. Même si elle ne peut pas se marier avec lui, elle doit se voiler devant lui. Je te donne un autre exemple pour que tu comprennes. Les épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont toutes nos mères. Non, personne ne peut épouser une épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Non, ni Aïcha, ni Hafsa, ni Khadija, ni Ramla, ni aucune. Et pourtant, aucune n'a le droit de se dévoiler devant nous. Aucune n'a le droit de se dévoiler devant nous. Aïcha, c'est notre mère. Hafsa, c'est notre mère. Ramla, c'est notre mère. Jouairia, c'est notre mère. Et personne n'a le droit, aucune d'elles ne se dévoile devant nous, alors que c'est notre mère. Naam. Ici, c'est un peu la même chose. Naam. Elle n'a pas le droit de se dévoiler devant son père biologique, alors qu'il ne peut pas se marier avec elle. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. J'espère vous rencontrer, inshallah ta'ala, samedi, bidna ta'ala, dans la aqida pour laquelle on vit, la aqida pour laquelle on meurt, la aqida avec laquelle on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. D'ici ce jour-là, je vous laisse, inshallah ta'ala, fi hifdillahi azza wa jal. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, qu'il raffermisse nos cœurs, qu'il nous donne la sincérité, hein, qu'il nous aide pour apprendre notre dîn, qu'il nous aide aussi pour propager ce qu'on apprend, qu'on n'est pas en train d'apprendre pour dire on apprend, mais on apprend pour propager ce dîn, pour le dire à mon voisin, pour le dire à mon cousin, pour le dire à celui que je rencontre dans la rue, pour le dire à mon frère, pour le dire à ma soeur, pour corriger quelqu'un, pour comme ça. Et toujours, fi sabilillah, ce n'est pas pour faire l'ostentation, pour que les gens parlent de moi. Je le fais, fi sabilillah, c'est comme ça que je dois faire. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, an yashfiya mardana, wa an yarudda ghaibana, wa an yusaddida duyunana, wa an yusahilana l'hijra, wa an yusahilana l'hijra, wa an yusahila lakum l'hijra. آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والعصر إن الإنسان لفي خسر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق